Alors que nous restons debout, pendant que nous prions, Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie et donateur de tous les précieux dons spirituels, nous sommes vraiment reconnaissants maintenant pour ces moments merveilleux, extraordinaires, temps de communion dans ta présence. C'est un grand point culminant dans notre vie, Seigneur. Un temps que nous n'oublierons jamais, quel que soit le temps que nous passerons encore ici-bas. Et nous te prions, ô Dieu, qu'en cette soirée de clôture, nous avons lu dans les Écritures que Jésus, le dernier jour de la fête, s'était au milieu de la foule et cria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Je te prie, Père Céleste, que cela se répète encore ce soir, que nous puissions entendre la voix de notre Seigneur, nous appeler à son service pour lui, une marche plus étroite. Nous avons déjà entendu sa voix, l'ouverture de ses sceaux, nous disant que nous étions au dernier jour et que le temps est proche. Accorde ces bénédictions que nous demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Pouvez-vous asseoir. J'aimerais encore ajouter ceci, c'est que de toutes les réunions que j'ai tenues dans ma vie, je crois que cette semaine a été le temps le plus glorieux de toute ma vie au service de Dieu. J'ai vu de grands miracles s'accomplir dans des services de guérison, mais ceci va au-delà de cela. Un des points culminants de ma vie, d'être ici, et de voir le petit tabernacle prendre un autre aspect, non seulement ça, mais l'intérieur aussi a pris un aspect différent. J'ai demandé à Billy, il a fallu tellement de temps pour venir me chercher, il m'a dit que cette semaine, il y a encore eu un groupe de gens qui se sont fait baptiser, plus d'une centaine, des gens qui ont été baptisés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si vous n'avez pas d'église à la maison chez vous, nous invitons à venir et avoir communion avec nous. Rappelez-vous que l'église est ouverte, nous ne sommes pas une dénomination. J'espère et j'ai confiance qu'elle ne le sera jamais, une dénomination. C'est simplement une communion où des hommes et des femmes, des garçons et des filles se rencontrent autour de la table de Dieu et avoir communion autour de la parole et avoir toutes choses en commun. Nous avons un merveilleux pasteur, un réel homme de Dieu, et j'en suis tellement reconnaissant. Et rappelez-vous cette vision que j'ai eue l'année dernière, où je vis toutes ces nourritures emmagasinées à cet endroit. C'est exactement vrai. Et maintenant, nous avons la place adéquate pour les classes d'école du dimanche, pour tous les âges. Et nous sommes simplement très reconnaissants pour cette opportunité. Quelques-uns ont dit une fois qu'il ne serait pas possible d'avoir ces classes d'école du dimanche où ils pourraient envoyer leurs enfants. Et maintenant, nous en avons. Alors, venez simplement chez vous, si vous n'avez pas d'église chez vous, bien sûr, si vous avez une bonne église où vous allez et qui prêche l'Évangile, alors c'est simplement un autre groupe comme le nôtre, quelque part ailleurs. Mais si vous n'en avez pas chez vous, et je sais que plusieurs d'entre vous ont déménagé de différentes parties du pays pour que cette église soit leur église de leur foyer, et nous vous accueillons ici pour écouter la parole du Seigneur. Je crois que quand je suis parti, je vous ai dit qu'en ce qui concerne les réunions, elles auraient lieu ici, au tabernacle. Je ne sais pas encore ce que le Seigneur a en réserve pour moi dans le futur. J'ai confiance d'être dans sa main, pas une superstition ou l'autre, mais j'attends simplement jour après jour qu'il me conduise à l'endroit où je puisse être un meilleur serviteur pour lui. Et quand il aura terminé avec moi, je crois qu'il me recevra en paix dans sa maison. Je suis très reconnaissant pour la coopération des gens du tabernacle. Comme Billy me l'a dit cette semaine, Je pense que chaque famille représentée ici dans le tabernacle a accueilli quelqu'un. Ils ont ouvert leur maison, ceux qui n'avaient pas d'endroit où se loger. C'est vraiment agir en chrétien.
Et
chez certains, la maison était vraiment bourrée jusqu'au dernier petit coin afin de loger les gens. Nous sommes dans une période difficile parce qu'il y a une grande manifestation sportive qui se passe au niveau du sport, du basketball ou quelque chose, et tout a été réservé, plus cette petite église sont représentées ici, 28 ou 30 États, plus encore deux pays étrangers. Ainsi donc, cette petite réunion de réveil prend déjà pas mal de place par elle-même. Alors je demandais aux gens, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup de gens de Jeffersonville à ces réunions. Et quelqu'un m'a dit, nous ne pouvons pas entrer. Voilà la raison. Quelques personnes de la police et autres auraient voulu venir aux réunions, mais ils ne pouvaient pas entrer. Tout était déjà plein avant qu'elles ne puissent entrer. Elles pourront peut-être venir à une autre occasion. C'est pourquoi elles ne sont pas venues et qu'il y a tout ce monde venant d'ailleurs. Nous sommes très reconnaissants. Maintenant, je ne sais pas, la chose qui va suivre, ce sera les sept trompettes. Mais dans les sceaux, il y a pratiquement tout qui est inclus. Les anges de l'Église sont venus, nous les avons placés en premier, car c'était le message le plus important pour ce temps-là. Maintenant, l'ouverture des sceaux montre où va l'Église et comment elle finit. Je pense que notre Père Céleste a été plein de grâce envers nous en nous faisant voir ce que nous avons vu. Et je dis ceci en regardant d'anciennes notes sur lesquelles j'ai prêché il y a de nombreuses années. Je me suis aperçu que je n'avais fait qu'effleurer le sujet, disant ce que je pensais être juste et continuant sans m'arrêter. J'étais bien loin du compte. J'avais fait les quatre premiers sauts, une petite prédication d'environ 20 minutes. Les quatre cavaliers d'Apocalypse, je les ai mis tous ensemble. Un cheval vin était blanc, je disais peut-être qu'il s'agit des premiers âges. Le cheval suivant apporte une famine et ainsi de suite. Oh là là, et quand la parole fut vraiment ouverte, je m'aperçus que j'étais à des centaines de kilomètres. C'est pourquoi il nous incombe d'observer et d'attendre. Et peut-être que c'était ce qu'il fallait faire en ce temps-là. Beaucoup de choses peuvent avoir été dites avec lesquelles les autres gens peuvent ne pas être d'accord. Mais je crois que lorsque viendra le temps du grand rassemblement où nous rencontrerons notre Seigneur, vous découvrirez que c'était juste. C'est vraiment juste. Et vous qui êtes d'autres endroits, venant de différents États et nations, comme j'apprécie votre sincérité, vous avez fait toute cette distance, vous avez pris du temps sur vos vacances. Certains d'entre vous ne savaient même pas où loger. Je le sais parce que j'ai pu aider moi-même quelques personnes à trouver un logement. Il y en a qui n'avaient même pas assez d'argent pour manger et qui sont venus malgré tout, s'attendant à ce que quelque chose se passe pour prendre soin de cela. Ils ont eu une si grande foi que peu leur importait de ne pas pouvoir manger ou se loger. Ce qu'ils désiraient, c'est de pouvoir entendre ces choses de toute façon. C'est vraiment courageux. Et tout le monde a été vraiment 100%. Dernièrement, j'ai rencontré mon beau-frère, c'est lui qui a réalisé la maçonnerie de cette église, et je lui disais combien j'appréciais son travail. Je ne suis pas un maçon, et je ne connais rien à ce métier, mais je sais ce qu'un angle droit est, et comment c'est fait. Il me dit, je vais te dire quelque chose, je n'ai jamais vu régner une telle harmonie parmi des gens qui doivent travailler ensemble. Frère Woods, frère Robertson, et tous les autres faisaient chacun son travail. Le frère qui a installé l'acoustique, la sonorisation dans l'église, il disait, tout marche très bien. Quand on avait besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un là pour le faire. Ainsi, c'est Dieu fut présent dans tout le programme. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Beaucoup ont fait des dons importants qui nous ont aidés dans cette réalisation, tels que frère et sœur Dow, qui sont ici, et beaucoup d'autres, qui ont fortement contribué à cette cause. Et maintenant, je crois que tout est pratiquement payé. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Rappelez-vous que c'est votre Église, car vous êtes des serviteurs de Christ. C'est pour cela qu'elle a été construite. une porte ouverte pour susciter des serviteurs. Quant à ceux qui sont déjà serviteurs de Christ, ils peuvent aussi entrer et se réjouir ensemble de la communion de Jésus-Christ. Nous voudrions que vous sachiez que chacun est bienvenu. Maintenant, quand vous m'entendez parfois, quand je suis sous l'onction, en quelque sorte, arracher le rideau des organisations, ça, je ne parle pas contre votre pasteur ou contre quelques frères ou sœurs dans votre église, parce qu'après tout, Dieu a des gens dans chaque organisation. Mais ce qu'il n'accepte pas, c'est l'organisation. Il accepte l'individu qui se trouve dans l'organisation. Ce n'est d'ailleurs pas seulement quand il y a une organisation, mais quand les gens sont tellement attachés à une organisation qu'ils ne peuvent rien voir d'autre que ce que leur église dit. Cela les empêche d'avoir communion avec les autres. C'est un système qui ne plaît pas à Dieu. C'est une affaire mondaine et qui n'est pas instituée par Dieu. Ainsi, je ne parle pas des individus catholiques, juifs, quoi qu'ils soient, méthodistes, baptistes, presbytériens, n'importe quelle organisation ou pas d'organisation, qu'ils soient dénominationnels ou non, Dieu a ses enfants dans ces groupes. Et je crois toujours qu'ils sont là dans un but. C'est de donner la lumière, attirant les prédestinés qui viennent de partout. Et en ce jour glorieux, que nous verrons alors, l'Église du Seigneur Jésus-Christ sera appelée au grand rassemblement dans les airs, et nous monterons tous à sa rencontre. Je me réjouis dans l'attente de cette heure. Il y a tellement de choses à dire, et ce soir, dans la soirée de clôture finale, dans un service de guérison, je trouve que l'attente de choses glorieuses qui vont se produire dans les services de guérison crée une tension et nous rend nerveux. Je m'aperçois que c'est pareil ce soir. Chacun est dans l'expectative de voir comment chaque soir cela a été ainsi pour l'ouverture de ces seaux. Je voudrais bien mettre les choses au clair. Chaque fois que ces seaux sont arrivés à l'endroit, tout ce que j'ai cru et que j'avais lu venant d'autres personnes était contraire à ce qui m'a été révélé dans ma chambre. Et ma pensée, en un tel moment, la raison pour laquelle j'ai fait ce service de guérison ce matin, c'est que ma pensée humaine s'éloigne tellement de ma propre manière de penser. J'ai essayé de rester dans une chambre avec les volets fermés et la lumière allumée. Ceci est le huitième jour. Sans même entrer dans ma voiture pour aller quelque part. J'ai dû aller avec quelques frères à la banque pour signer des papiers au sujet de l'argent et ces choses-là, de l'argent emprunté pour construire l'église, mais je suis revenu immédiatement dans ma chambre pour étudier. Et chose étrange, il n'y a eu personne qui ait dit quoi que ce soit. D'habitude, il y a toujours des gens qui frappent, qui vont et qui viennent. Cette fois, il n'y a eu personne. C'était vraiment phénoménal. Là où je mange, chez Frère Woods, d'habitude, cet endroit est rempli de voitures et il y a toujours 8 ou différentes personnes qui séjournent chez lui pendant ce temps. Mais cette fois, personne n'est venu. Alors ce matin, je n'oublierai jamais ce matin la grâce de notre Sauveur envers son serviteur épuisé, fatigué. En répondant à la question d'une pauvre personne au mieux de ma pensée, pensant que je l'avais fait correctement, tout à coup, ce fut comme si je venais de voler quelque chose à un enfant. Je sentais une telle condamnation et je ne comprenais pas pourquoi je pensais. Peut-être que quelqu'un est dans un état désespéré que je devrais prier pour lui immédiatement. Et je posais la question à l'auditoire et cela me fut révélé. À ce moment-là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai lu la question pour voir ce qui était écrit. J'ai consulté le livre et je m'aperçus que je ne répondais pas du tout à la question. Puis-je vous communiquer quelque chose? Lorsque le surnaturel entre, c'est la pensée de Christ. Vous vous éloignez tellement de votre propre manière de penser que dans votre propre pensée, n'essayez pas d'essayer de me demander d'essayer de l'expliquer parce que je n'y arriverai pas, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Comment cet homme, Élie, se tenant là sous cette onction sur la montagne en présence de Dieu, peut-il faire tomber le feu du ciel, faire venir la pluie immédiatement après le feu, fermer le ciel afin qu'il ne plût pas pendant 3 ans et 6 mois et rappeler la pluie qui se remit à tomber le jour même, et sous cette onction, s'emparer de 400 prêtres et les mettre à mort, et ensuite s'enfuir dans le désert à la menace d'une femme. Vous voyez, Jézabel, qui avait juré de lui ôter la vie. C'est alors qu'Akab et tous les autres purent voir la présence de Dieu et l'accomplissement d'un grand miracle. Vous voyez, l'esprit l'avait quitté. Dans sa manière naturelle de penser, il ne savait que penser. Il ne pouvait pas penser par lui-même. Mais rappelez-vous qu'après avoir dormi et s'être reposé, l'ange le réveilla et lui donna quelques gâteaux à manger et le laissa tomber dans le sommeil encore une fois pour qu'il se repose. Ensuite, l'ange le réveilla de nouveau et lui donna encore quelques gâteaux. Nous ne savons pas ce qui est arrivé pendant ces 40 jours. Il avait été placé quelque part dans une caverne où Dieu l'avait appelé. N'essayez pas d'expliquer le surnaturel. Vous ne le pouvez pas. La seule chose à faire est d'aller simplement de l'avant. Et j'essaie de m'expliquer et d'être aussi clair que possible. Mais je pense qu'à partir de maintenant, je pense que je n'essaierai plus. Vous croyez totalement ou pas du tout. Et vous verrez pourquoi un peu plus tard. J'ai essayé d'être honnête, Dieu le sait, au sujet de la question ce matin. J'ai essayé d'y répondre aussi honnêtement que possible. Je n'avais lu que la première partie du verset et cela n'aurait pas été juste. Mais le Saint-Esprit, comprenant que ma pensée, voyez ce qui s'est passé ces deux ou trois derniers jours. J'avais dit 700 au lieu de 7000 ce matin-là. Mais les gens l'ont remarqué, ce qui montre que vous étiez attentifs. Une autre fois, je voulais dire la colombe, et je l'ai appelé l'agneau, mais je me suis repris immédiatement. Quant à cette autre question, où je ne me suis pas rendu compte de mon erreur, tout de suite, le Saint-Esprit m'y a ramené immédiatement. C'est une double confirmation que ces choses sont véritables. Dieu veille à ce que ce soit juste. C'est vrai. Il veut que vous sachiez que c'est la vérité. Il est celui qui envoie ces choses, car elles sont un enseignement aussi bien pour moi que pour vous. Ainsi, je suis très reconnaissant pour cette connaissance que j'ai maintenant et qui me vient du Seigneur, laquelle me montre dans quel temps nous vivons. Nous vivons au temps de la fin, avant le départ de l'Église. Maintenant que nous avons parlé, demandons encore une fois sa bénédiction sur la parole. Notre Père Céleste, nous voici au début de cette glorieuse soirée, de cette heure glorieuse, où quelque chose de glorieux s'est produit. Cela a été partout au milieu des gens. Et Père, je te prie que ce soir, ce soit révélé sans l'ombre d'un doute dans le cœur des gens et leurs pensées, qu'ils sachent que Dieu est encore sur le trône et qu'il aime encore son peuple. Et que l'heure que le monde a ardemment désiré voir s'approche, car il crie pour la rédemption. Nous pouvons voir les éléments prêts pour le ramener. Nous pouvons voir les éléments prêts à emmener l'Église dans la présence de Christ. Nous pouvons voir l'épouse prendre forme, revêtir le vêtement de noces, se préparer. Nous pouvons voir les lumières vaciller. Nous savons que nous sommes à la fin. Maintenant, Père Céleste, nous allons prêcher ce soir ou enseigner sur ce glorieux événement qui a eu lieu dans la gloire il y a 2000 ans et qui a été donné à Jean, ton grand disciple bien-aimé. Nous allons parler ce soir de cela, que le Saint-Esprit s'avance maintenant dans sa grande puissance de révélation, afin qu'il puisse nous révéler ces choses qu'il veut que nous sachions, comme il l'a fait dans ces derniers soirs. Nous nous remettons à toi avec la parole, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous voulez prendre votre Bible, nous allons lire un verset très court, un seul verset de l'Écriture. C'est le dernier verset. C'est le dernier sceau plutôt. Hier soir, nous avons parlé du sixième sceau, premier sceau étant la présentation de l'Antichrist. Son temps s'est écoulé, nous avons vu comment il est sorti. Maintenant, l'être vivant, la bête, introduite par la puissance de Dieu, s'avance contre la puissance de l'Antichrist pour la combattre. Je ne crois pas que personne ait des questions à poser à ce sujet. Nous voyons ensuite immédiatement, après cet âge de l'Église, que la bête, nous voyons que le décor a complètement changé. Il ne vient plus d'être vivant, vous voyez. Mais nous entrons maintenant dans la période de tribulation après que l'Église soit sortie, comme tout concorde bien avec les âges de l'Église. Je ne vois pas le moindre iota, pas la moindre chose qui ne correspond pas parfaitement. Les âges, les temps, pensez-y. Cela montre qu'il fallait que ce soit Dieu qui fasse cela. La pensée humaine ne pourrait pas sonder cela. Ensuite, nous avons découvert, le Seigneur nous a fait prendre les Écritures, les Saintes Écritures, ce que Jésus a dit qui allait arriver. Comment aurions-nous jamais trouvé cela? Mais le voilà qui vient révéler ces choses exactement dans sa prédication, répondant et décrivant point par point six des sceaux, mais il a omis le septième. Quand les sceaux furent ouverts, Dieu, remarquez bien, a omis même de révéler le moindre symbole du septième. C'est un secret parfait avec Dieu. Remarquez, maintenant nous allons lire dans la Bible le septième sceau. On le trouve dans Apocalypse au chapitre 8. Et lorsqu'il ouvrit le septième sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. C'est tout ce que nous avons. Maintenant, nous essaierons de remarquer, de ne pas vous retenir trop longtemps parce que beaucoup doivent être sur la route ce soir pour rentrer à la maison. J'avais pensé faire de nouveau un service de guérison ce matin, ce qui vous aurait permis de partir dans la matinée. Vous n'auriez pas eu besoin d'attendre. Moi aussi, cela m'arrangerait parce que je dois rentrer à Tucson, en Arizona, où j'habite maintenant, c'est ma maison. J'aimerais bien revenir ici si le Seigneur le veut. Ma famille aimerait revenir quelques jours en juin. Peut-être que je pourrais vous voir à ce moment-là lors d'une réunion. Mes prochaines réunions se tiendront à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Je crois que ce sera les 9, 10 et 11. Je serai là jeudi et vendredi saint. J'ai dû tout grouper et j'ai eu d'autres rendez-vous. C'est pourquoi je pourrais aller jeudi et vendredi soir à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ensuite, la prochaine rencontre, potentiellement, nous ne sommes pas sûrs, c'est avec mes bons amis du groupe L'Appel de minuit, là-bas, à Southern Pines, en Caroline du Nord. Ils sont d'ailleurs reliés en ce moment avec le téléphone et ils nous ont envoyé par télégramme des messages. Ils se sont rapprochés d'un autre groupe de Little Rock. Les gens du nom de Jésus avec lesquels j'ai eu une rencontre au Cow Palace l'été dernier. Ils se tiennent maintenant, ils ont leur convention à Little Rock en Arkansas. Et depuis l'année dernière, ils auraient bien aimé que je vienne à leur convention. Ils auraient voulu que je vienne pour toute la convention, mais étaient d'accord que je vienne même pour une seule soirée. C'est pourquoi je leur ai dit, ne sachant pas exactement que faire, j'ai dit de faire une annonce potentielle et de le faire savoir un peu plus tard. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Hot Springs, je me suis trompé. Le 24 mai, du 24 au 28 juin. Maintenant, c'est annoncé potentiellement que, si c'est la volonté du Seigneur, voyez-vous, voici la raison pour laquelle j'aime faire ces choses. Vous l'apprendrez un peu plus tard maintenant. Lorsque je vais quelque part, j'aime poser le pied là en sachant que Dieu m'a dit, vas-y. Alors si l'ennemi veut s'élever contre moi, je dis, je suis ici au nom du Seigneur Jésus, retire-toi. Et ainsi on est sûr du terrain sur lequel on se tient. Voyez, lorsqu'il vous envoie, il prendra soin. Mais si vous allez en présumant, alors je ne sais pas, il pourrait ne pas être là. C'est pourquoi j'aime être aussi certain que possible. J'ai pris de nombreux engagements qu'il ne m'a pas dit expressément de prendre. Mais j'aime d'être aussi sûr que possible. Que le Seigneur vous bénisse tous maintenant. Nous avons remarqué, ceci n'étant qu'un seul verset ici. J'aimerais faire quelque chose avant ici. Vous avez remarqué que nous avons passé le septième chapitre. Le sixième chapitre se termine. Termine le sixième sceau. Mais entre le sixième sceau et le septième sceau, il y a quelque chose qui se passe. Voyez? Et comme j'aime comme c'est placé merveilleusement à sa bonne place là, entre le sixième et le huitième chapitre. Maintenant, vous remarquez, dans le septième chapitre, vous remarquez qu'entre le sixième et le septième, il y a un intervalle. Un intervalle entre le sixième et le septième chapitre du livre de l'Apocalypse, c'est entre le sixième et le septième sceau qu'il y a cet intervalle. Nous voulons remarquer cela. C'est très important que nous remarquions ce petit temps-là. Maintenant, souvenez-vous, après le quatrième chapitre de l'Apocalypse, l'Église est partie. Après que les quatre cavaliers soient sortis, l'Église est partie. Voyez? Tout ce qui est arrivé à l'Église se termine au premier verset du quatrième chapitre de l'Apocalypse. Tout ce qui est arrivé dans les mouvements de l'Antéchrist va jusqu'au quatrième chapitre et le quatrième sceau de la Révélation, aussi bien pour l'Antéchrist que pour Christ, se termine là. L'Antéchrist vient à sa damnation avec son armée et Christ vient avec la sienne. C'est une vieille bataille qui a commencé il y a longtemps. Et Satan et ses anges furent chassés. Ils vinrent alors sur la terre où la bataille recommença parce qu'Ève avait brisé la barrière de la parole de Dieu derrière laquelle elle était isolée. Et à partir de cette heure-là, Satan a gagné la bataille contre la parole de Dieu, parce qu'un de ses sujets, le plus faible, a laissé tomber la barrière. C'est exactement qu'il a gagné la bataille chaque fois, parce que un de ses sujets a abaissé sa garde derrière la parole. Et c'est ce qui s'est passé dans le dernier âge de l'Église par le moyen du système d'organisation, parce que la Sainte Église réelle et authentique du Dieu vivant de l'âge du lion n'a pas voulu accepter la parole et a détourné l'Église de la parole vers les dogmes. Combien d'entre vous savent que ce sont des dogmes sur lesquels l'Église catholique romaine est établie? Est-ce qu'ils l'admettent? Absolument. Certainement. Ils l'admettent. Le dire aux catholiques ne blesse pas le moins du monde leurs sentiments parce qu'ils le savent. Ils viennent d'en ajouter un, disant que Marie est ressuscitée. Vous vous rappelez cela il y a quelques années, il y a environ 10 ans. Combien se souviennent de cela? Les journaux, bien sûr. Un nouveau dogme. Ce sont tous des dogmes, pas la parole. Un prêtre, dans une entrevue récemment, M. Branham, il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Il a dit, nous ne sommes pas censés discuter. Je dis, je ne discute pas. Je fais simplement une déclaration. Dieu est dans sa parole. C'est vrai. Quiconque ôtera ou ajoutera quoi que ce soit à la parole, c'est la parole qui le dit. Il m'a dit, et Dieu a donné, Christ a donné à son Église la puissance. Il leur a dit que tout ce qui lirait sur la terre serait lié dans le ciel. J'ai dit, c'est l'exacte vérité. Il me répondit, c'est en nous fondant sur ce principe que nous avons le pouvoir de délivrer du péché. Et je lui dis, si vous le faites de la manière dont ça a été donné à l'Église, de la manière que tu le fais, je l'accepterai. Si vous l'acceptez, il y a ici de l'eau pour que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Ce ne sera pas simplement quelqu'un qui vous dira que vos péchés sont remis. C'est exactement. Observez Pierre tenant les clés du jour de la Pentecôte. Souvenez-vous qu'il a les clés dont il est parlé. Les gens avaient demandé, « Homme, frère, que devons-nous faire pour être sauvés ?» Pierre dit, « Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour la rémission des péchés. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et vos enfants, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » C'est vrai. Ça règle la question pour toujours. C'est fini. Cela a été fait. Et voyez, l'Antéchrist est entré, comme nous l'avons décrit et montré. Quelle révélation! Oh là là! Je pense à toutes ces années pendant lesquelles nous l'avons vu monter et où cela est absolument, directement, ainsi dit le Seigneur. Maintenant, Et nous avons remarqué qu'il y a un intervalle entre le sixième et le septième chapitre. Le septième chapitre de l'Apocalypse nous révèle un événement. Il n'est pas là pour rien. Il n'a pas été placé là pour rien, voyez. Il est ici dans un but, et c'est une révélation qui révèle quelque chose. Remarquez, comme c'est mystérieux et comme mathématiquement cela s'ajuste aux Écritures. Exactement. Croyez-vous à la mathématique de Dieu? Si vous n'y croyez pas, vous êtes certainement perdu, parce que vous vous perdrez dans la parole. Si vous commencez à ajouter un 4 ou un 6 ou n'importe quoi aux mots mathématiques, qui sont tous dans un ordre parfait, vous verrez bientôt une vache broutée au sommet d'un arbre. Vous vous y perdrez, parce que toute la parole de Dieu est écrite entièrement sur les mathématiques, parfaitement. Aucun autre livre dans la littérature n'est écrit avec une telle perfection mathématique. Maintenant, le huitième chapitre ne fait que révéler la scène du septième sceau, où rien d'autre n'est révélé. Rien. Ce n'est pas révélé dans le septième sceau, maintenant, dans le septième chapitre de l'Apocalypse. C'est révélant le septième sceau, la révélation est complètement muet, et si j'avais le temps, je vous montrerai quelques endroits depuis la Genèse où il est parlé de ce septième sceau. Depuis le début de la Genèse, ces sceaux, on les voit apparaître. Ne pouvez-vous pas vous rappeler comment ces choses ont été apportées ce matin? Observez cela ce soir, tandis que nous les apportons, et vous découvrirez que nous arrivons à ce septième sceau, il y a une interruption. Jésus-Christ lui-même, parlant des temps de la fin, décrivit les six premiers sceaux, mais quand il arriva au septième, il s'arrêta. Vous y voilà. C'est une chose glorieuse. Maintenant, nous allons parler de ce septième chapitre pendant un moment, afin de faire un pont entre le sixième et le septième sceau, parce que c'est là tout le matériel dont nous disposons en ce moment même. C'est entre le sixième et le septième sceau, il y a l'appel d'Israël. Maintenant, j'ai beaucoup de nombreux amis de témoins de Jéhovah, d'anciens témoins. Peut-être que certains sont encore témoins de Jéhovah, mais ils ont toujours, comme M. Russell, ils ont toujours considéré ces 144 000 comme étant dans l'épouse surnaturelle de Christ. Vous voyez? Ce n'est pas ça. Ils n'ont rien à faire du tout dans les âges de l'Église. Il s'agit absolument d'Israël. Nous allons le lire dans quelques minutes. Maintenant, cet intervalle entre le sixième, les sceaux, il y a l'appel et le scellement des 144 000 juifs qui ont été appelés dans la tribulation, période de tribulation après le départ de l'Église. Ça n'a rien à voir avec les âges de l'Église du tout. Ils sont appelés en parfaite harmonie avec les Écritures. Les trois dernières semaines et demie allouées au peuple de Daniel. Pas les nations, mais le peuple de Daniel, et Daniel était juif. Maintenant, remarquez, Israël ne croit que ses prophètes. Et seulement après qu'ils aient été confirmés, jamais dans les âges de l'Église, même si l'on remonte à la première Église apostolique, l'Église protestante n'a jamais eu de prophète. Sinon, montrez-le-moi. Jamais. Il y en eut un dans le premier âge apostolique, un nommé Agabus, qui était un prophète confirmé. Mais quand les nations sont entrées dans l'héritage de Dieu, quand Paul se tourna vers les nations, après que Pierre, comme nous l'avons lu hier soir, a reçu du Seigneur l'ordre de susciter parmi les nations un peuple qui porta son nom, son épouse, on ne voit jamais dans les pages de l'histoire un prophète des nations. Donc vous pouvez essayer de chercher dans l'histoire. Pourquoi? Exactement, ce serait contraire à la parole. Exactement. Quand le premier être vivant s'est avancé, c'était un lion. C'était un prophète de la parole. Ensuite, c'était le sacrifice. Ensuite, l'intelligence, la ruse de l'homme. Mais il nous a été promis, dans les derniers jours, de revenir à l'Église à nouveau pour le bénéfice de redresser tout ce qui avait été laissé inachevé, car il a prédit ici que le message du septième ange terminerait les mystères de Dieu. Et nous avons parcouru tout cela, nous avons vu que c'était en harmonie parfaite avec les Écritures, c'est la raison. Pouvez-vous imaginer ce qui se passera quand cet homme entrera en scène? Quand il viendra, souvenez-vous, ce sera si humble que les églises le manqueront complètement. Pourriez-vous imaginer que les églises qui sont encore sous la tradition des réformateurs recevront jamais un prophète de Dieu qui s'opposerait fermement à leurs enseignements et organisations? Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait accomplir cela. Je ne connais qu'un seul esprit qui a déjà été sur la terre. Il faudrait que ce soit Élie, comme il était de son temps, et il nous a été prédit que ce serait ce qui n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ. Quand Christ est venu, il était la plénitude, il était un prophète, il était le Dieu des prophètes. Vous voyez? Christ, regardez comment ils l'ont haï, mais il est venu exactement de la manière que la parole a dit qu'il viendrait. Mais étant donné qu'il était prophète, ces hommes s'excluent eux-mêmes du royaume de Dieu en appelant l'Esprit de Dieu, qui faisait le discernement, etc., un esprit impur. Il disait qu'il était un diseur de bonne aventure ou un démon. En effet, un devin est un démon, oui. Un esprit de démon, certainement. Saviez-vous cela? Absolument. La divination est une imitation de la prophétie, ce qui absolument est un blasphème devant Dieu. Maintenant, remarquez. Tout cela est en parfaite harmonie avec les Écritures concernant les 3 ans et demi de Daniel, les derniers 3 ans et demi. Remarquez qu'il avait été dit dans l'Ancien Testament aux croyants d'Israël de croire seulement leurs prophètes après que ceux-ci aient été confirmés. S'il y a parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète, moi, le Seigneur ton Dieu, je me ferai connaître à lui et je lui parlerai par des visions, par des songes. Il interprétera les songes. Si quelqu'un a un songe, le prophète sera capable de l'interpréter. Et s'il a une vision, il la parlera. Je me ferai connaître à lui par des visions et des songes. Je me ferai connaître. Et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez ce prophète, car je suis avec lui. Si ça n'arrive pas, alors n'ayez aucune crainte de lui. C'est vrai. Éloignez-vous simplement. Laissez-le tranquille. Oui. Israël croira toujours cela. Ne comprenez-vous pas pourquoi? J'aimerais que vous saisissiez bien cette leçon ce soir. Pourquoi? Parce que c'est un ordre que Dieu leur a donné. Peu importe les brochures et les prospectus que leur enverront les nations, vous allez beau chercher Israël avec votre Bible sous le bras prouvant ceci ou cela, ils ne recevront jamais rien d'autre qu'un prophète. C'est l'exacte vérité. Car seul un prophète peut prendre la parole divine et la mettre à sa place et être un prophète confirmé. C'est cela qu'ils croiront. C'est vrai. J'ai eu l'occasion de parler à un juif à Benton Harbor lorsque John Ryan, qui avait été aveugle presque toute sa vie, a reçu la vue. Ils me conduisirent là-haut à cette maison de David. Un rabbin à longue barbe sortait à ma rencontre et me dit, « Par quelle autorité avez-vous rendu la vue à John Ryan ?» Et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Il m'a répondu, « Loin de moi la pensée que Dieu est un fils. » Et il dit, « Vous autres ne pourrez jamais couper un Dieu en 3 morceaux et le faire accepter un juif, faire 3 dieux de lui. Vous n'êtes qu'une bande de païens. » Et je lui dis, « Je ne coupe pas Dieu en 3 morceaux. » J'ai dit, « Rabbin, cela ne vous semblerait-il pas étrange de croire qu'un de vos prophètes ait dit quelque chose de faux? » Il dit, « Nos prophètes ne disent rien de faux. » Je lui ai dit, « De qui Ésaïe 9:6 parle-t-il? » Il a dit, « Du Messie. » J'ai dit, « Donc, le Messie sera un homme prophète, n'est-ce pas juste? » Il a dit, « Oui, monsieur, c'est vrai. » J'ai dit, « Alors, montrez-moi où Jésus a failli à cela. » J'ai dit, « Quelle relation y aura-t-il entre le prophète Messie et Dieu ?» Il a dit, « Il sera Dieu. » J'ai dit, « C'est vrai. » Ainsi, vous voyez que c'est écrit dans sa parole. Que Dieu m'aide. Les Juifs étaient là et les larmes coulaient le long de ses joues. Et j'ai dit, je viendrai vous écouter plus tard. Et j'ai dit, rabbin, vous croyez cela? Il m'a dit, regardez. Il a dit, Dieu est capable de ces pierres de susciter les enfants Abraham. Je savais qu'il était dans le Nouveau Testament. J'ai dit, c'est juste, rabbin, maintenant, qu'allez-vous faire? Il a dit, si je prêche cela, je vais me retrouver là-bas en bas. Vous savez que leur synagogue se trouve au sommet de la colline, dans la rue, en train de mendier mon pain. J'ai dit, je préférerais devoir aller dans la rue mendier mon pain. Le juif était encore attaché à l'argent, vous comprenez. Son nom écrit en lettres d'or. J'aimerais mieux être là-bas, à manger des biscuits secs et à boire de l'eau du robinet, sachant que je suis en harmonie avec Dieu et approuvé, que d'être ici, avec mon nom écrit en lettres d'or sur cette maison, en sachant très bien que je suis loin de Dieu. Il ne voulait plus m'écouter. Il est rentré. Voilà tout. Vous ne pouvez pas couper Dieu en deux ou trois morceaux appelés Père, Fils et Saint-Esprit et faire de cela trois dieux et donner ça à un juif. Son commandement même est, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Seigneur ton Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, écoute, ô Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, un Dieu. Pas trois, vous ne pourrez jamais donner cela. Non, aucun prophète ne parlera jamais de trois dieux. Vous n'entendrez jamais cela. Non, non, monsieur. C'est du paganisme. Cela vient du paganisme, c'est certain. Remarquez, ces prophètes viendront. Pas seulement ça. Les prophètes, maintenant, c'est Apocalypse 11. Nous avons lu quelque chose à ce sujet et j'aimerais que vous le lisiez tandis que vous l'étudiez en écoutant les bandes. Ce sont absolument des prophètes confirmés par les signes des prophètes. Alors, Israël l'écoutera. Maintenant, à vous, chers amis témoins de Jéhovah, comprenez bien que ces 144 000 n'ont aucun rapport avec l'épouse. Il n'y a aucun passage des Écritures pour soutenir cela. Non, monsieur, ils ne le sont pas. Ce sont des Juifs. Les élus qui sont appelés à sortir pendant les 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel. Vous savez, je reviens toujours là-dessus. Ce n'est pas tant pour vous qui êtes ici, mais vous savez, ces bandes vont partout. Vous comprenez cela. Si vous m'entendez toujours parler de cela, c'est pour cette raison. Remarquez. Comprenez maintenant pourquoi Dieu dut aveugler les Juifs, Jésus ou Dieu, pour les empêcher de reconnaître Jésus. S'ils savaient, si seulement ils savaient, voyant les signes qu'il a accomplis, s'ils avaient été dans une période semblable à celle où ils étaient, sous la loi, quand Dieu leur donna le commandement au sujet des prophètes, voyant Jésus faire ces choses, ils auraient dit, c'est le Messie. Pourquoi était-ce le Messie? Dans cet temps-là, ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau, ses apôtres et d'autres encore, virent cela et le reconnurent. Pourquoi pas les autres? Voyez, ils avaient été aveuglés. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne le voient pas encore, toujours pas, et ils ne le verront pas tant qu'Israël soit né comme une nation en une seule fois. La parole ne peut pas faillir. Rappelez-vous que la parole ne peut pas faillir. Peu importe combien de sensations vous avez, ce qui se passe, cependant, cette parole ne peut pas faillir. Ce sera exactement de la manière que Dieu l'a dite. Nous réalisons que ces choses doivent arriver. Et c'est la raison pour laquelle ils ne reconnurent pas Jésus alors même qu'il était identifié parfaitement comme étant le prophète. Il était même pour la femme samaritaine là près du puits. Il n'avait jamais été en Samarie. Il s'est levé simplement en disant qu'il devait aller dans cette direction. Il est allé là et cette femme était là. Et elle, dans son état, était dans une meilleure position pour recevoir l'évangile que tous les prêtres et gens religieux de ce jour. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, et malgré leur rejet, un des plus élevés parmi eux admit qu'il savait que Jésus était un docteur envoyé de Dieu. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un des meilleurs médecins qu'il y ait dans les États du Sud. J'étais dans son bureau, un grand spécialiste de Louisville, un homme vraiment très bien. Et je lui dis, docteur, je voudrais vous poser une question. Il dit, très bien. J'ai dit, j'ai remarqué l'enseigne de votre profession, votre emblème, un serpent enroulé autour d'un bâton. Que signifie-t-il? Il dit, je ne sais rien, je ne sais pas. Il dit, cela se tient pour ceci, c'est un symbole de la guérison divine. Quand Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, voyez, ce n'était alors rien qu'un symbole, un symbole du vrai Christ. Aujourd'hui, la médecine est un symbole de la guérison divine. Et bien que beaucoup ne le croient pas, les vraiment bons médecins le croient. L'emblème même qu'ils brandissent est un témoignage de la puissance du Dieu Tout-Puissant, qu'ils aient ou non envie de le croire. C'est vrai, sur l'emblème de la médecine, il y a un serpent d'airain suspendu à une perche. Considérez ces Juifs. Les écailles de l'aveuglement étaient sur les yeux de ce peuple. Ils n'y pouvaient rien, c'était là. Et Dieu les avait mis là. Et elles seront là jusqu'à l'âge de la venue de ce prophète qui leur a été promis. Vous pourriez leur envoyer des missionnaires et faire tout ce que vous voulez. Israël ne sera jamais converti avant que ces prophètes entrent en scène, ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église des nations. Alors, le bœuf, l'âge de bœuf, ne peut pas recevoir l'appel adressé à un lion, car Dieu a dit dans sa parole que c'est un esprit de bœuf qui est sorti. Dans l'âge de la réforme, c'est un homme qui est sorti. Vous voyez? C'est tout ce qu'ils pouvaient recevoir. Et là maintenant, ils sont aveuglés. C'est tout ce qu'il y a. Remarquez bien que l'âge vient où s'en sera fait des nations. Il y avait un arbre dont les racines étaient juives, mais il fut retranché, et les nations furent greffées sur l'olivier sauvage, et il donne son fruit. Lorsque cette épouse des nations sera retranchée, cet arbre de l'épouse dont j'ai parlé, et sera conduite dans la présence de Dieu, Dieu va balayer ces nations incrédules, mettra de côté les vierges folles et greffera de nouveau Israël. Il a promis de le faire. Mais en attendant ce moment-là, vous devez simplement savoir où vous allez. Si vous savez où vous allez, eh bien tant mieux. Si vous ne savez pas, vous êtes en train de trébucher dans les ténèbres. C'est alors que les Juifs seront convertis. Ce sera comme dans l'âge de l'Église, sous la puissance de la promesse ointe, ils recevront Christ, mais pas avant que les nations soient entrées. Maintenant, nous pouvons voir quel genre de message ces deux prophètes d'Apocalypse 11 prêcheront. Vous pouvez voir clairement ce qu'ils feront. Car le reste, les 144 000 prédestinés, reçoivent le sceau de Dieu. Lisons. Écoutez attentivement maintenant. Je voudrais que vous lisiez avec moi, si vous le pouvez, parce que je vais m'y référer intimement. Le septième chapitre, c'est entre le sixième et le septième sceau. Et après ces choses, après ces sceaux, après l'ouverture de ce sixième sceau qui est la période de tribulation, tout le monde comprend cela maintenant? Le sixième sceau fut ouvert et c'est la tribulation. Après cela, regardez. Après ces choses, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Quatre anges. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à voix haute aux quatre anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, « Ne nuisez pas à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs, pas l'épouse, les serviteurs, pas les fils, les serviteurs, Israël, a toujours été les serviteurs de Dieu. L'Église, ce sont ses fils par naissance. Israël sont ses serviteurs. Regardez partout. Abraham fut son serviteur. Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des enfants, des fils et des filles. Au front. Et j'entendis le nombre de ceux qui furent scellés. Écoutez attentivement maintenant. 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. il les a parfaitement nommés. S'il y a ici de ceux qui voient le British Israel, écoutez comment cela va être démenti. De la tribu de Judas furent scellés 12 000. Il appelle les tribus. De la tribu de Ruben furent scellés 12 000. De la tribu de Gad, 12
000.
Observez les tribus maintenant. Et de la tribu d'Aser furent scellés 12
000.
De la tribu de Nephtali furent scellés 12 000. De la tribu de Manassé, 12
000.
De la tribu de Siméon, scellés 12 000. De la tribu de Lévi, furent scellés 12
000.
De la tribu d'Issachar,
12 000.
Je pense que vous prononcez Issachar. De la tribu de Zabulon, 12
000.
Et de la tribu de Joseph, furent scellés 12
000.
De la tribu de Benjamin furent scellés 12 000. Ça fait 12 tribus. Et 12 000 sont pris dans chaque tribu. 12 fois 12 000, ça fait combien? 144 000. Remarquez qu'ils étaient tous des tribus d'Israël. Après cela, voici que vient un autre groupe. Maintenant, l'épouse est partie. Nous savons cela. Mais observez ce groupe qui vient. Après ces choses, et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, ayant des palmes dans les mains. Et ils crient à voix haute, disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et toutes les nations étaient aux alentours autour du trône, et autour des anciens, et des quatre animaux. Et ils tombèrent devant le trône, sur leur face, pour adorer Dieu, disant, Amen. La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des anciens, il est ici devant ses anciens, comme nous l'avons vu tout au long des sceaux. Et l'un des anciens répondit, disant, qui sont ceux-ci? Maintenant, Jean avait reconnu son propre peuple, il les vit sous forme de tribu, n'est-ce pas? Il les reconnut et nomma chacune des tribus. Mais maintenant, quand il voit cette foule, il est embarrassé. Et les anciens le savent, ils lui demandent, « Qui sont ceux-là qui sont revêtus de blanc et d'où viennent-ils » Jean va répondre. Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais, Jean ne les connaissait pas. » Vous voyez, il avait toute tribu, et peuple et langue. Il me dit, « Ce sont ceux. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Parce que l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux fontaines des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Maintenant, nous arrivons au sceau. Avez-vous remarqué? Premièrement, nous commençons avec Israël, ensuite nous voyons l'Église purifiée par l'épouse, l'Église purifiée par la tribulation. Il vient ici ce grand nombre de cœurs sincères qui sont sortis de la grande tribulation. Ce n'est pas l'Église, l'épouse, qui est déjà enlevée, c'est l'Église. Nous découvrons un peu plus tard que Jésus a dit que le trône serait installé et qu'il passerait en jugement, chacun d'eux. Alors nous découvrons maintenant que ces gens avaient été scellés du sceau du Dieu vivant. N'est-ce pas vrai, ces Juifs? Quel est le sceau du Dieu vivant? Je ne dis pas cela pour blesser les sentiments, je le dis simplement, voyez-vous. Savez-vous que beaucoup d'érudits dont j'ai lu les écrits prétendent que ce groupe qui a été lavé dans le sang est réellement l'épouse? Saviez-vous que beaucoup de théologiens prétendent aussi que les 144 000 sont l'épouse? Il faut qu'il y ait quelque chose qui corresponde exactement, car maintenant il y a quelque chose de faux. Remarquez, nos frères adventistes disent que le sceau de Dieu consiste à garder le jour du sabbat. Vous savez cela? Mais j'aimerais bien trouver une seule petite parcelle des Écritures montrant que l'observation du jour du sabbat est le sceau de Dieu. Vous voyez, c'est simplement quelqu'un qui a eu cette idée. Mais si vous lisez Éphésiens 4:30, il est dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Lorsque l'œuvre du médiateur est achevée, Christ vient racheter les siens. Vous êtes scellés, non pas seulement jusqu'au prochain réveil. Lorsque vous avez été scellés du Saint-Esprit, c'est une œuvre achevée, Dieu vous a reçu, et on ne peut pas sortir de là. Vous direz, bien, je l'ai reçu, et puis je me suis éloigné. Non, vous ne l'aviez pas. Dieu dit que cela continue jusqu'au jour de la rédemption. C'est vous qui discutez avec lui, mais il a dit, jusqu'au jour de votre rédemption. Remarquez, comme il y avait un reste selon l'élection, les Juifs maintenant, un reste selon l'élection, au jour du premier ministère d'Élie pour les Juifs, 7000 croyants furent mis à part par la main de Dieu. Maintenant, dans ce temps du reste, les 144 000 selon l'élection. Qui croiront le message en ce temps-là, les 144 000. Vous direz, attendez une minute, frère, je ne sais rien de cette histoire d'élection. Eh bien, très bien, nous allons voir si c'est juste ou pas. Revenons à Matthieu. Et voyons si nous pouvons trouver un petit quelque chose à ce sujet. Je crois que c'est bien là. Je n'ai rien noté, mais cela m'est juste venu à l'esprit. Prenons à la fin du verset 30, nous l'avons vu l'autre soir, à la fin du sixième sceau, au 30e verset. Lisons cela. Et voyons maintenant où cela nous mène. Le verset 31. Où nous voyons le Fils de l'homme entrer dans la gloire. 30e verset. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus sortiront. Qu'est-ce que c'est? Et il y a la période de tribulation. Dieu appellera ses élus, et ce sont les Juifs, à ce moment-là. Les élus. La Bible en parle, Paul en parle. Selon l'élection, il y en aura 144 000, selon l'élection, qui croiront le message, parmi littéralement des millions qui seront là. Ils étaient des millions en Palestine au jour de la prophétie d'Élie, mais 7000 seulement furent sauvés parmi tous ces millions. Ainsi, selon l'élection, et malgré les millions de Juifs qui sont en train de se rassembler dans leur patrie, qui est devenue une nation, sur ces millions, seuls 144 000 élus seront pris. Ils entendront le message. C'est pareil avec l'Église des Nations. Il y a une épouse. Elle est élue. Et sera appelé selon l'élection. Remarquez, vous voyez comment tout cela forme un type parfait de l'Église, les croyants élus. Les autres ne croient pas. Vous pouvez simplement le parler. Vous aurez beau dire la vérité à ces hommes et la démontrer par la parole et ensuite la confirmer. Je ne crois pas à cela. Ne perdez plus de votre temps avec cela. Jésus a dit de ne pas le faire. Il a dit, c'est comme jeter des perles devant les pourceaux. Laissez-les tranquilles, sinon ils se retourneront contre vous et ils vous piétineront. Ils se moqueront de vous. Éloignez-vous simplement d'eux et laissez-les tranquilles. Si un aveugle conduit un autre aveugle. Il n'y a pas longtemps, je suis allé chez quelqu'un, ou plutôt quelqu'un venu vers moi en disant, je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à votre guérison divine. J'ai dit, oh là là, mon frère, je pense que cela ne servira à rien parce que j'en ai aucune. Et j'ai dit, celle de Dieu est parfaite. Il dit, une telle chose n'existe pas. Je lui dis, mon cher, vous venez un peu tard pour dire cela. Vous avez attendu trop longtemps. Vous auriez pu discuter il y a quelques années. Mais maintenant, nous vivons dans un autre âge. Et il y a des millions de personnes qui peuvent en témoigner. Vous êtes venu trop tard pour dire cela. Et il me dit, eh bien, je ne crois pas, peu importe ce que vous faites. Certainement pas. Vous ne pouvez pas. Et il me dit, frappez-moi d'aveuglement. Si vous avez le Saint-Esprit comme Paul, frappez-moi d'aveuglement. Je dis, comment pourrais-je le faire alors que vous êtes déjà aveugle? Votre Père vous a aveuglé à la vérité. Vous êtes déjà aveugle. Et il me dit, je n'y croirai pas. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, apporter toutes les évidences. Je ne croirai toujours pas. Certainement, ce n'est pas pour les incrédules, ce n'est que pour les croyants. Qu'est-ce que c'était? On pouvait voir tout de suite que l'élection était hors de lui. Ne perdez pas votre temps. Alors. J'ai déjà fait pareillement. Il a dit, laissez-les tranquilles. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Mais lorsqu'il rencontra une pauvre prostituée, l'étincelle jaillit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une semence élue. Vous voyez, il l'avait vu tout de suite. Il est venu vers Pierre. Il y avait une semence élue. Il l'a vu. Et tous ceux que le Père m'a donné au temps passé, tous ceux qu'ils m'ont donné, ils viendront. Ils viendront à moi. Oh, j'aime cela. Oui, monsieur. Remarquez, le croyant, il y croit réellement. Mais les incrédules ne peuvent pas y croire. Ah, si maintenant, si quelqu'un veut discuter sur la semence du serpent, ces autres sujets, lorsque vous essayez de leur expliquer, s'ils ne veulent pas vous écouter, éloignez-vous simplement, laissez-les tranquilles, vous voyez. Dieu ne discute pas, ni ses enfants. Remarquez que les 144 000 élus juifs de Dieu ne se prosternent pas devant le dénominationalisme de la bête, les statues ou quoi que ce soit. Bien que leur pays ait fait alliance avec elle à ce moment-là, Israël est dans une alliance, et il y en a 144 000 qui ne le feront pas. Ce sont les élus. C'est exactement ce qui se passe maintenant dans l'Église des Nations. Il y a un groupe élu. Vous ne pouvez pas les attirer dans ce genre de choses. Ils n'y croiront pas. Non, monsieur. Une fois que la lumière les a frappés, tout est réglé. Ils voient cela arriver, et ensuite c'est confirmé, prouvé. Ils sondent alors leur Bible et voient cette parole. Alors cela, vous en serez pour vos frais, car de toute façon, ils croient. Un point, c'est tout. Même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer, ils savent qu'ils l'ont. Comme j'ai dit, il y a quantité de choses que je ne peux pas expliquer, mais je sais que c'est réel de toute manière. Très bien. C'est pendant cette période qui s'étend entre le 6e et le 7e sceau qu'il appelle ces gens, selon ce qui est dit par Jésus dans Matthieu 24, 31e verset que nous venons de lire. Lorsque la trompette retentit, les deux témoins, quand la trompette retentit, la trompette des deux témoins de l'âge de la grâce pour les Juifs. Une trompette sonne, remarquez, une trompette sonne, il dit, avec le son de la trompette. Verset 31. Et il enverra ses anges, pas un, il y en a deux, avec la trompette retentissante. Qu'est-ce que c'est? Dieu s'apprête à parler, la trompette retentit. C'est toujours sa voix qui appelle à la bataille. Dieu parle. Ses anges s'avanceront en faisant sonner la trompette. Avez-vous aussi remarqué au message du dernier ange, la trompette sonne. Au message du premier ange, une trompette sonne. Au deuxième ange, une trompette sonne. Quand il est envoyé. Mais remarquez que quand les sceaux furent annoncés, ils étaient tous ensemble dans quelque chose de glorieux, de divin, qui était destiné à appeler un groupe à sortir. Ils le sont d'une trompette et les sept sceaux furent brisés. Rassemblant ces juifs élus des quatre extrémités des cieux. Il a mentionné six sceaux, mais pas le septième sceau. Il n'a jamais rien dit nulle part du septième sceau. Directement, verset 32, il se tourne vers une parabole concernant le temps de l'appel des Juifs élus. Regardez ici. Il enverra ses anges avec la trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre coins des cieux. Ensuite, il commence la parabole. Vous voyez, il ne dit rien du septième sceau. Il a parlé du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième sceau. Mais ensuite, apprenez d'une parabole, du figuier, dès que ses branches viennent tendre et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. La question qu'il lui avait posée, quel sera le signe de la fin du monde? Quand vous verrez ces Juifs, quand vous verrez ces autres choses arriver, vous saurez ce qui arrive. Lorsque vous verrez ces Juifs, il parle aux Juifs. Regardez. À quel groupe est-il en train de parler? Aux nations? Non, aux Juifs. Aux Juifs. Vous voyez? Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et ainsi de suite. Quand vous verrez là-bas, ces Juifs commencer à produire leurs bourgeons, quand Israël commencera à rentrer dans son pays, quand elle arrive là, l'Église est prête pour l'enlèvement, et il ne reste plus que 3 ans et demi avant la fin de l'ancien monde, et le monde entre dans le chaos, et le millénium vient sur une terre nouvelle. Il dit, c'est à la porte. 1000 ans sur la terre ne sont qu'un jour pour Dieu. Alors 3 ans et demi, qu'est-ce que ça représente? Quelques secondes au temps de Dieu. C'est pourquoi il a dit, c'est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, c'est-à-dire ce peuple ne sera pas détruit jusqu'à ce que tout ceci n'arrive. Quoi donc? Qu'est-ce qui ne sera pas détruit du temps où on a essayé d'exterminer les Juifs de la surface de la terre? Mais on ne le pourra jamais. Remarquez que cette génération même de Juifs qui a vu le retour en Palestine, c'est cette génération-là qui verra s'accomplir ces choses. Et il y a à peine 2 ans qu'Israël est pleinement devenu une nation, ayant sa propre monnaie et tout le reste. Où en sommes-nous, les amis? Les sceaux et tout s'ouvrent. Nous approchons ici de cette période intermédiaire, c'est là. Voyez-vous, nous en sommes. J'espère que vous le saisissez. Je n'ai aucune instruction. Je sais de quoi je parle, mais peut-être que je n'arrive pas à m'exprimer de manière afin que ça ait du sens pour vous. Mais j'espère que Dieu prendra les mots qui sont mélangés, les remettra à leur place et qu'il vous fera savoir la signification parce que nous sommes à la porte. Nous sommes ici en ce temps-là. Remarquez. Maintenant même, il se tourne vers ces Juifs et il dit que ce qui arrivera au temps de la fin. Nous savons, maintenant nous savons, nous en sommes bien conscients, que les tribus sont dispersées. Elles l'ont été pendant 2500 ans. Il fut prophétisé qu'elles seraient dispersées aux quatre vents, le saviez-vous? Nous ne chercherons pas ce passage parce que j'ai quelque chose de vraiment important que je voudrais que vous voyiez avant que vous soyez trop fatigués. Remarquez, nous savons que les tribus la chronologie tribale, ou comment vous voulez l'appeler, la généalogie ou l'ordre des tribus, ils sont dispersés partout, les Juifs. Leurs livres ont été détruits, si vous leur demandez de quelle tribu êtes-vous. Il a été prophétisé qu'il en serait ainsi dans le monde entier. Leurs livres ont été détruits, si vous leur demandez de quelle tribu venez-vous, je ne sais pas. L'un de Benjamin, l'autre de ceci, l'autre de cela. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Leurs livres ont été détruits au cours des guerres depuis 2500 ans. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont des Juifs, voilà tout. C'est pour cela qu'ils sont de retour dans leur patrie. Remarquez, bien qu'ils ne connaissent pas leur tribu, mais Dieu, lui, la connaît. Oh, j'aime simplement cela. Vous savez qu'il a dit, chaque cheveu de votre tête est compté. Remarquez, il ne perd rien. Je le ressusciterai au dernier jour. Bien qu'ils aient perdu leur bannière tribale, ne sachant plus qui ils sont, s'ils sont de ceci ou de cela, de Benjamin, de Ruben, d'Issachar ou de quelques tribus, mais de toute manière, Dieu les appelle. Remarquez, dans Apocalypse 7, nous lisons ceci, 12 000 de chaque tribu, des élus qui viennent de tout cela. Il y en a 12 000 de chaque tribu qui sont élus et placés ici dans l'ordre. Oh là là, qui sont-ils? Ils sont dans l'ordre des tribus. Ils ne le sont pas encore maintenant, mais ils le seront. Ils sont dans l'ordre tribal. Quel sera l'ordre tribal? Pas les juifs ordinaires, non. Mais ceux qui ont été élus, les 144 000, seront groupés selon l'ordre tribal. Oh là là! Comme j'aimerais vous montrer cela, nous ne pouvons pas entrer là-dedans, mais voilà exactement comment ça doit être. Les juifs, dans l'ordre. Maintenant, je voudrais que vous soyez très attentifs et que vous lisez avec moi. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué dans l'appel des tribus. Je vous ai dit tout à l'heure de lire Apocalypse 7. Lisez-le avec moi et observez ces tribus. Dans Apocalypse 7, Dan et Ephraïm manquent. Ils ne sont pas comptés avec les autres. L'avez-vous remarqué? Joseph et Lévi ont été substitués à leur place. L'avez-vous remarqué? Dan et Ephraïm ne sont pas là. Non, monsieur. Mais Joseph et Lévi ont été substitués à la place de Dan et Ephraïm. Pourquoi? Le Dieu qui se souvient de tout se souvient de chaque promesse de sa parole. Oh, j'aimerais prêcher là-dessus. Dieu n'oublie rien. Même si cela semble, c'est ce qu'il a dit à Moïse, Israël avait été 400 ans en Égypte, mais après ce temps-là, il fallait qu'il sorte. Il avait dit à Abraham que sa semence séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans et qu'ensuite il les ferait sortir de main puissante. Il a dit à Moïse, « Je me suis souvenu de ma promesse. Je suis venu pour accomplir ce que j'ai dit. » Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas ses malédictions, mais n'oublie pas non plus ses bénédictions. Toute promesse qu'il a faite, il reste avec elle. Voilà pourquoi ces deux tribus manquent. Maintenant, lisez. Je veux que vous lisiez avec moi maintenant Deutéronome, 29e chapitre plutôt. Il y a une raison pour laquelle ces tribus ne sont pas là. Tout a sa raison. Deutéronome, 29e chapitre de Deutéronome. Que le Seigneur nous aide, que nous puissions comprendre. Nous voulons commencer Deutéronome 29, au verset 16. Écoutez, c'est Moïse qui parle. Car vous savez comment nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé à travers les nations que nous avons traversées. Et vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, du bois, de la pierre, de l'argent et de l'or, qui sont parmi eux. Chacun portait avec lui un petit quelque chose, une petite statue, Sainte-Cécile ou quelque chose comme ça. De peur, écoutez, de peur qu'il y ait parmi vous un homme, une femme, ou une famille, ou une tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui d'avec l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations, de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui produise du poison ou de l'absinthe, wormwood, et qu'il n'arrive que quelqu'un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse dans son cœur, disant, j'aurai la paix, même si je marche dans l'imagination de mon propre cœur. Oui, il se bénit. Vous savez, faire un petit signe de croix ou quelque chose comme ça. C'est la même chose. Oui, c'est un trait de paganisme. Il se bénit lui-même, dans son propre cœur, dans sa propre imagination, dans sa propre pensée, ajoutant l'ivresse à la soif. C'est de l'ivrognerie, Vous direz, ça n'a aucune importance, tant que vous allez à l'église, vous êtes en ordre. L'Éternel ne l'épargnera pas. La colère de l'Éternel et sa jalousie fumeront contre cet homme. Et toute la malédiction qui est écrite dans ce livre, n'enlevez aucune parole, n'y ajoutez aucune parole, reposera sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux, pendant qu'il est sur la terre, c'est-à-dire sous les cieux. Et l'Éternel le séparera de toutes les tribus d'Israël selon le malheur, toutes les malédictions de l'Alliance qui est écrite dans ce livre de la loi. Donc tout homme qui servira une idole ou gardera une idole sur lui ou se bénira lui-même dans l'imagination de sa propre pensée ou servira les idoles, Dieu a dit, homme, femme, famille ou tribu, son nom sera complètement effacé du milieu du peuple. N'est-ce pas vrai? Combien c'est vrai. L'idolâtrie a fait la même chose dans l'Église il y a des années. Elle le fait encore aujourd'hui. Remarquez ceci. Observez comme l'Antéchrist a essayé de faire un anti-mouvement. Combien d'entre vous savent que le diable fabrique des types et des modèles d'après les saints de Dieu? Qu'est-ce que le péché? C'est la chose juste pervertie. Qu'est-ce qu'un mensonge? C'est la vérité mal représentée. Qu'est-ce que l'adultère? C'est l'acte juste, légitime, accompli faussement. Non, effacé, vous remarquez que dans les âges de l'Église, cette même bête qui sert les images des morts et autres a essayé d'effacer le nom du Seigneur Jésus-Christ et donne les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. La même chose. Cette malédiction qui est là derrière, c'est pareil. Dan et Ephraïm ont fait juste cela sous le règne hypocrite d'un roi en Israël, un imposteur, Jéroboam. Remarquez, dans 1 roi, 12e chapitre, ceci, pour moi, pose un fondement sur lequel nous allons dépendre. 12e chapitre de 1 roi, du verset 25 à 30. Et Jéroboam bâtit Sichem dans la montagne d'Éphraïm, et y habita, il sortit de là, et bâtit Penuel. Et Jéroboam dit en son cœur, vous voyez, c'est l'imagination de son cœur, maintenant le royaume retournera à la maison de David. Il avait peur que le peuple l'abandonne. Si ce peuple monte pour offrir le sacrifice dans la maison de l'Éternel à Jérusalem, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront, et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Et le roi prit conseil et fit deux veaux d'or et dit au peuple, c'est trop pour vous de monter à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et il en mit un à Bethel et l'autre, il le plaça à Dan. Et ceci devint péché, car le peuple allait adorer devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Vous voyez, Bethel, Ephraïm et Dan. Et c'est là qu'il dressa les idoles et le peuple alla les adorer. Et maintenant que nous sommes presque dans le millénium, Dieu se souvient encore de ce péché. C'est pour cela qu'ils ne sont pas comptés dans le nombre des tribus. Aussi sûr qu'il se souvient de chacune de ses promesses de bien, il se souvient également de chacune de ses promesses de mal. Rappelez-vous que c'est la raison pour laquelle, chers amis, j'ai toujours essayé de rester avec cette parole, si étrange qu'elle paraisse. En ce temps-là, vous voyez, ils n'y avaient pas pensé. Ils pensaient qu'ils s'en tireraient malgré tout. Et les voici ici, dans cet âge du millénium qui va commencer, avec leur nom et celui de leur tribu effacés. Parce qu'ils ont servi les idoles que Dieu maudissait. N'a-t-il pas dit qu'il haïssait les Nicolaïtes et cette Jézabel? Restez loin de cela. N'a-t-il pas dit qu'il livrerait les filles de Jézabel en les faisant mourir de mort, ce qui est la séparation éternelle de sa présence? Ne faites pas confiance à cela, pas du tout. Éloignez-vous-en. Ainsi, Dieu s'en est souvenu. Remarquez, mais avez-vous remarqué que c'est pour les effacer? Pourquoi? Sous le ciel, il n'y avait pas de sacrifice immédiat qui puisse introduire le sacrifice afin qu'il puisse voir ces choses, mais il l'a fait de toute manière selon sa pensée égoïste. Mais Ézéchiel, dans sa vision du millénium, il les voit de nouveau dans un ordre parfait. Si vous voulez le lire, lisez Ézéchiel 48, de 1 à 7, et aussi de 23 à 29. Ézéchiel voit chaque tribu exactement dans l'ordre. Et aussi dans Apocalypse 14, Jean les a vus de nouveau dans l'ordre tribal. C'est vrai, chaque tribu a sa place. Que s'est-il passé? Souvenez-vous, il a dit, sous les cieux, c'est là que leur nom serait effacé du milieu des tribus. Aussi longtemps qu'ils étaient sous les cieux, ils n'auraient plus de nom. Et ces 144 000 ici sont encore dans la dispensation des tribus. C'est vrai. Mais vous voyez, ils avaient été aveuglés et n'avaient que le sacrifice des taureaux et des boucs. Vous remarquez qu'il a effacé leur nom de dessous les cieux. Par contre, les nations, au jour de la dispensation du Saint-Esprit, si vous vous opposez à lui, votre nom est complètement ôté du livre de vie et il n'y aura de pardon ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. N'est-ce pas vrai? Voilà notre position. Israël était sous le sang des boucs et des agneaux. Ils avaient une place, mais tant qu'ils étaient ici sur la terre, ils manquaient des noms aux tribus. Ils ne pouvaient jamais être inclus. Lorsqu'il appelle les 144 000, ces deux noms-là manquent, c'est vrai. Ils ne sont même pas du tout comptés. Joseph et Lévi sont mis à la place de Dan et Ephraïm. Maintenant, vous pouvez le vérifier, c'est là devant vous. C'est là la promesse que Dieu a faite des centaines d'années auparavant. Maintenant, qu'est-il arrivé? Ils furent purifiés pendant le temps de cette terrible période affreuse de tribulation. Si Dieu doit purifier cette vierge, qui est pourtant une femme de bien, mais qui a simplement manqué d'huile dans sa lampe, et qu'il la purifie en la faisant passer par la persécution, il place cette tribu dans la même situation pour les mêmes raisons, et les purifie pendant la période de tribulation, parce que c'est une purification, c'est le jugement. Mais vous voyez, et regardez ici, voici que viennent les 144 000 après la purification d'Israël. Et il y a aussi les vierges endormies qui viennent, et elles ont toutes des robes blanches, voyez. Combien c'est parfait, combien c'est beau. C'est comme Jacob, dans son temps de trouble. Jacob eut un temps de trouble et dut passer par un temps de purification car il avait mal agi en trompant son frère Ésaü. Il l'avait trompé pour obtenir le droit d'aînesse. C'est pour cela qu'il dut passer par une purification afin que son nom soit changé de Jacob en Israël, ce qui était un type de l'ordre de Dieu pour aujourd'hui. Nous allons nous tourner maintenant vers le premier verset du chapitre 8. Le premier verset, je veux dire, du chapitre 8. Apocalypse 8, 1. Je sais que vous êtes fatigué, mais essayez d'écouter la leçon juste encore quelques minutes. Que le Dieu du ciel nous aide. C'est ma prière. Nous devons nous rappeler que ce septième sceau est la fin du temps de toutes choses. C'est vrai. Les choses écrites dans le livre scellé de sept sceaux, scellé le plan de la rédemption avant la fondation du monde, arrivent toutes à la fin. C'est la fin. C'est la fin de ce monde en lutte. C'est la fin de la nature qui lutte. C'est la fin de toutes choses. En lui, il y a fin des trompettes, la fin des coupes, la fin de la terre. Et c'est même la fin du temps. Le temps s'écoule. La Bible le dit. Matthieu, je veux dire, Apocalypse, 10e chapitre, verset 1 à 7. Le temps s'est écoulé. L'ange dit qu'il n'y aurait plus de temps au jour où se passeront ces glorieuses choses. Tout s'écoule à la fin. À la fin du septième sceau. Remarquez que c'est la fin des âges de l'Église. C'est la fin du septième sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et cela termine même l'entrée dans le millénium. C'est dans le septième sceau. C'est comme lorsqu'on lance une fusée dans l'air. Et cette fusée explose. Elle monte et explose à nouveau. Cinq étoiles jaillissent. Et une de ces étoiles explose et cinq autres en sortent. Parmi eux, une explose et chasse cinq nouvelles étoiles. Voyez? Et puis tout s'éteint. Voilà ce qu'est ce septième sceau. Il termine le temps du monde. Il termine le temps de ceci. Il termine le temps de cela. Tout est terminé. Tout est terminé à ce septième sceau. Comment va-t-il le faire? C'est ce que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. C'est le temps marqué pour toutes ces choses et pour l'introduction du millénium. Remarquez, le brisement de ce sceau est si glorieux que le ciel était dans le silence pendant l'espace d'une demi-heure. Maintenant, est-ce que c'est glorieux? Qu'est-ce que c'est? Le silence dans le ciel, pas la moindre chose ne bougeait pendant une demi-heure. Maintenant, une demi-heure n'est pas longue si vous passez un bon moment. Mais quand cette attente, c'est un suspense entre la vie et la mort, ça semble comme un millénium. C'était si glorieux que Jésus n'en a rien mentionné, ni les autres. Jean ne pouvait rien écrire à ce sujet. Cela lui fut interdit d'écrire. C'était simplement le silence. Les 24 anciens qui se tenaient devant Dieu et jouaient de la harpe arrêtèrent de jouer la harpe. Les anges firent cesser leur chant dans le ciel. Pensez à ces saints chérubins et séraphins qu'Ésaïe avait vus dans le temple avec leurs trois paires d'ailes, une paire leur couvrant la face, une paire sur les pieds, volant nuit et jour devant Dieu, disant, « Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Et quand ils entraient dans le temple, les portes étaient ébranlées par leur présence. Et ces saints séraphins se sont tus. Les anges interrompirent leur chant. Ceux qui volaient en présence de Dieu en chantant « Saint, Saint, Saint » se sont tus. Aucun chant d'ange, pas de louange, pas de service à l'autel, rien du tout. C'était le silence. Tous étaient tus, un silence de mort dans le ciel pendant une demi-heure. Toute l'armée des cieux fit silence pendant cette demi-heure, quand le mystère de ce septième sceau dans le livre de la rédemption fut ouvert. Pensez à cela. Mais il est brisé. L'agneau le brise. Vous savez quoi? Ils étaient remplis de crainte. Ils ne savaient pas. Voilà, ils se sont arrêtés tout simplement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, aucun d'entre nous ne le sait. Mais je vais vous donner ma révélation. Je n'ai pas tendance au fanatisme. Si c'est le cas, je ne me rends pas compte. Je ne suis pas sujet à des comportements bizarres, à courir après des choses imaginaires. J'ai dit certaines choses qui ont pu paraître étranges à certaines personnes, mais quand Dieu vient derrière les confirmer, disant que c'est la vérité, alors c'est la parole de Dieu. Mais cela peut sembler étrange ainsi. Et maintenant, aussi sûr que je me tiens ici ce soir, à cette estrade, ce soir, j'ai la révélation qui a révélé que c'est d'une manière en trois phases. Et je vais vous en parler par l'aide de Dieu d'un volet. Allons-y premièrement. Voici la révélation. Et je vais vous dire ce que c'est. Ce qui arrive, c'est que ces sept tonnerres qu'il a entendu tonner et qu'il lui fut interdit d'écrire, c'est là, derrière ces sept tonnerres mystérieux qui tonnent, que se trouve le mystère. Pourquoi? Prouvons-le. C'est le secret que personne ne connaît. Il fut interdit à Jean d'écrire. Il ne put même pas écrire un symbole. Pourquoi? Voici pourquoi. Il n'y avait aucune activité dans le ciel. Cela pourrait donner le secret, le dévoiler. Voyez maintenant. Si c'est si glorieux, il doit être inclus parce que cela doit arriver. Mais quand les sept tonnerres, maintenant remarquez, quand les sept anges s'avancent pour sonner de la trompette, il y eut un tonnerre. Lorsqu'Israël fut rassemblé, il y eut une trompette. Quand il n'y aura plus de temps, ce sera la dernière trompette. Un tonnerre. Mais ici, ce sont sept tonnerres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un nombre parfait. Sept tonnerres d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Directement. Alors, les cieux n'ont pas pu l'écrire. Les cieux n'en savent rien. Rien d'autre. Parce que c'est un temps de relaxation si grand que ça a été gardé secret des anges. Maintenant, pourquoi, si Satan pouvait s'en emparer, ça pourrait causer un grand dommage. Et c'est une chose qu'il ne connaît pas. Maintenant, il peut interpréter tout ce qu'il veut et imiter n'importe quelle sorte de don. J'espère que vous apprenez. Mais il ne peut pas connaître ceci, ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret total, les anges et tout le reste se sont tus. S'ils avaient fait un seul mouvement, cela aurait pu dévoiler quelque chose. C'est pourquoi ils se sont tus. Ils arrêtèrent même de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. Sept est le nombre parfait de Dieu. Sept, juste d'affilée, sept tonnerres firent entendre leur voix. Ensemble, comme s'ils épelaient quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à écrire, il a dit, n'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Jean ne pouvait pas l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges du ciel n'en savaient rien. Il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le savait. Mais il nous a dit que lorsque nous commencerions à voir ces signes apparaître, maintenant, vous arrivez quelque part? Très bien. Remarquez. Lorsque nous commençons à voir ces signes apparaître, si Satan pouvait s'emparer de cela, si vous voulez que quelque chose arrive, maintenant, croyez-en ma parole. Si je projette de faire quelque chose, je suis assez avisé pour n'en parler à personne. Ce n'est pas que quelqu'un en parlera, mais Satan l'entendra, voyez. Il ne peut pas entrer dans mon cœur tant que Dieu l'a maintenant fermé par le Saint-Esprit. Dans ce cas, c'est une affaire entre Dieu et moi. Satan ne sait rien jusqu'au moment où vous le parlez, alors il l'entend. Et je dis aux gens que je vais faire telle ou telle chose. Je peux voir le diable faire tout ce qu'il peut pour me mettre des bâtons dans les roues. Mais si je peux recevoir la révélation de Dieu et ne rien dire, alors c'est différent. Rappelez-vous, Satan essaiera toujours d'imiter. Il essaiera d'imiter tout ce que l'Église fera. Il l'a déjà essayé, nous l'avons remarqué, dans toutes les actions de l'Antichrist. Mais cette chose-là, il ne pourra pas l'imiter. Il n'y aura pas d'imitation à ceci. Parce qu'il ne le sait pas. Il n'y a aucun moyen pour lui de le savoir. C'est le troisième pôle. Il ne sait tout simplement rien à ce sujet. Il ne comprend pas. Mais il y a un secret là-dessous. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Je ne pourrai plus jamais avoir la même pensée le reste de ma vie. Depuis que j'ai vu, maintenant, je connais l'étape suivante, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ce ne sera pas long. Je l'ai noté ici quand c'est arrivé. Vous pouvez le voir ici. Stop! Ne va pas plus loin. que ceci. Je n'ai pas de tendance au fanatisme. Je vous dis simplement la vérité. Mais rappelez-vous, le petit soulier, j'essayais toujours d'expliquer comment l'âme se trouve près de ceci et cette conscience intérieure et toutes ces choses qui ont donné le départ d'une série d'imitations qui sont venues après. Comment il fallait prendre la main de la personne, la tenir et recevoir la vibration. Et alors chacun se mit à ressentir des vibrations dans la main. Mais rappelez-vous, quand il me prit là-haut, il a dit, « Voici le troisième pôle et personne ne le connaîtra. » Vous vous souvenez de cela? Les visions ne faillissent jamais. Elles sont parfaitement la vérité. Maintenant, remarquez, souvenez-vous de la vision, de la constellation.
Charlie,
nous y voilà. Quelque chose est en train de se passer, je vous l'ai dit cette semaine. Cela a été tout autour de vous, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous souvenez de la constellation, dans cette vision des anges, quand je suis parti d'ici pour aller en Arizona. Vous vous rappelez ma prédication, messieurs? Quelle heure est-il? Vous vous souvenez? Remarquez. Il n'y eut qu'un seul grand coup de tonnerre et sept anges sont apparus. N'est-ce pas vrai? Un coup de tonnerre, sept anges sont apparus. Et je vis l'agneau lorsqu'il ouvrit le premier sceau et j'entendis comme une voix de tonnerre. Et l'un des quatre animaux dit, viens et vois. Remarquez. Un tonnerre. Sept messages qui ont été scellés et ne peuvent pas être révélés avant le dernier jour. Cet âge. Voyez-vous ce que je veux dire? Avez-vous remarqué l'élément mystérieux de cette semaine? Voilà ce que c'est. C'est ce que cela a été. Ça ne vient pas d'un être humain, d'un homme. Cela a été les anges du Seigneur. Remarquez, il y a trois témoins assis ici. Il y a un peu plus d'une semaine, j'étais là-bas, dans les montagnes, près du Mexique, avec deux frères qui se trouvent ici. Je m'étais baissé pour enlever un gratteron qui était attaché à mon pantalon. Et une explosion a éclaté qui semblait assez forte pour ébranler les montagnes. Maintenant, c'est juste. Je n'en ai jamais parlé à mes frères, mais ils ont remarqué une différence. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, sois prêt, va vers l'Est. Voici l'interprétation de cette vision. Maintenant, pour vous faire savoir, frère Sothman n'avait pas pu attraper l'animal qu'il chassait. Nous étions en train d'essayer de l'avoir. Alors le Seigneur me dit, ce soir, comme signe pour toi, il ne la trouvera pas. Tu dois te consacrer maintenant pour la visitation de ces anges. Et je me sentais hors de moi. J'étais à l'ouest. Les anges venaient vers l'est. Alors qu'ils se sont approchés, je fus enlevé avec eux. Vous vous souvenez de ça? Ils venaient de l'Est. Et frère Fred et Norman ici ce soir sont témoins. Alors que nous sommes allés là, j'ai presque persuadé cet homme de rester et d'aller chercher sa bête. N'est-ce pas vrai, frère Sussman? Il est juste là. Je l'ai persuadé. Et cependant, le Seigneur m'avait dit, il ne la trouvera pas. Je ne dis rien, j'ai continué mon chemin. Quelque chose qui se tenait vers le côté de la tente, ce jour, vous en souvenez, frère Sussman? Presque aussitôt que certaines choses lui furent dites, je vous ai mis, où est frère Norman? Là? Je vous ai fait prêter serment de ne pas mentionner ce qui était en train de se passer, n'est-ce pas vrai? Ne me suis-je pas retourné et éloigné de la tente comme ceci, n'est-ce pas vrai? Parce que voilà ce que c'était. Exactement ce que c'était. En sachant que je ne pouvais pas le dire, afin que je puisse voir si les gens comprenaient. Et avez-vous remarqué que l'un des anges, je l'ai dit, était un ange étrange? Il était pour moi plus que les autres. Vous vous souvenez de cela? Ils étaient dans une constellation, trois d'un côté et un au sommet. Et celui qui était près de moi ici, en comptant de la gauche à la droite, ça aurait été le septième ange. Il était plus lumineux. Il avait pour moi plus de signification que les autres. Il avait le torse bombé, il volait vers l'est. Vous vous souvenez de cela? Et j'ai dit, cela m'a saisi, m'a élevé. Vous vous souvenez? Et voici celui avec le septième sceau, la chose qui m'a intrigué toute ma vie. Amen. Ces autres sceaux représentaient beaucoup pour moi, bien sûr. Mais vous ne savez pas ce que celui-là a représenté. Car une fois dans ma vie, j'ai prié, j'ai crié à Dieu. C'était après la rencontre de Phoenix, comme tous ceux qui sont ici le savent. J'étais là dans la montagne un matin, je me suis levé, je suis allé au Sabino Canyon, une montagne escarpée, et je montais là-haut en suivant un petit sentier. Je suis monté là jusqu'à Lemon Mountain, ce qui représente une marche d'environ 30 miles, et là, il y a bien 10 mètres de neige. Ainsi, là, dans la montagne, très tôt, le matin, en suivant ce petit sentier, faisant dévaler des cailloux partout, je me suis senti conduit à aller dans cette direction. Je me suis tourné vers ces grands rochers déchiquetés qui étaient hauts de plusieurs centaines de pieds. Je me suis agenouillé entre ces rochers. J'ai posé ma Bible et ce petit carnet-là sur le sol. J'ai dit, Seigneur Dieu, que signifie cette vision? J'ai dit, Seigneur, est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Vous vous rappelez que je pensais que c'était ma mort parce que j'avais vu quelque chose exploser au point de me réduire en miettes. Vous vous en souvenez? Combien on a entendu parler? Je pensais que ça voulait dire ma mort plus tard. Dans la chambre, qu'est-ce que c'était, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais mourir. Si c'est bien, je ne dirai pas à ma famille. Laisse-moi simplement partir si mon travail est terminé. Maintenant, qu'est-ce que c'était? Il m'envoyait un témoin, et vous rappelez, ce n'était pas cela, mais c'était le développement futur de mon travail. Vous avez saisi? J'étais assis là, dans le Sabino Canyon. L'œuvre céleste le sait. Aussi vrai que vous avez vu arriver ces choses, ces anges sont descendus et ont confirmé chaque message. Par conséquent, vous savez si cela vient de Dieu ou pas. Cela vous a été prédit par une vision. Je ne pouvais pas vous le dire avant la fin des réunions parce que cela me fut défendu. J'étais assis là, dans les Sabino Canyon. J'avais les mains levées. Le vent soufflait à terre mon chapeau noir. Je me tenais là, les mains levées, priant en disant, « Seigneur Dieu, que signifie cela? Je ne peux pas comprendre, Seigneur. Que ferais-je si c'est le moment d'entrer à la maison? Laisse-moi partir là-haut, on ne me trouvera pas. Si je dois partir, je ne désire pas que quelqu'un porte deuil pour moi. J'aimerais simplement que ma famille pense que je suis parti faire une promenade, qu'ils ne me retrouveront pas. Cache-moi quelque part. Si je dois m'en aller, laisse-moi simplement m'en aller. Peut-être Joseph trouvera-t-il ma Bible ici quelque part. Qu'il puisse l'utiliser. Si je dois m'en aller, laisse-moi partir, Seigneur. Mes mains étaient tendues et tout à coup quelque chose a touché ma main. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Étais-je endormi? Je ne sais pas. Suis-je tombé dans une transe? Je ne sais pas. Était-ce une vision? Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était comme ces anges. Et cela a touché ma main. J'ai regardé, et c'était une épée. Avec une poignée ornée de perles, vraiment belle. Elle avait une garde d'or. Et la lame avait l'apparence de chrome, comme de l'argent, vraiment brillante. Et elle était très tranchante comme un rasoir. Oh là là, je pensais, n'est-ce pas la chose la plus belle qui soit dans ma main? Je pensais, c'est vraiment joli. Je disais, mais j'ai toujours eu peur de ces choses, une épée. Et je pensais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et tout à l'heure, une voix fit trembler les rochers. C'est l'épée du roi. Et alors, je suis sorti de cet état. L'épée du roi. Maintenant, s'il avait dit l'épée d'un roi, mais c'était l'épée du roi. Et il n'y a qu'un seul, le roi. Et c'est Dieu. Et il n'y a qu'une seule épée. C'est sa parole. C'est par elle que je vis. Alléluia. Ainsi que Dieu me vienne en aide. Aide-moi à revêtir son saint vêtement et à porter cette sainte épée à mon côté. C'est la parole. Amen. Oh, dans quel jour nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez, le mystère et le secret. Il m'a envoyé là. Lorsque cette chose m'a quitté, quelque chose m'a dit, ne crains pas. Je n'ai pas entendu de voix, mais comme à l'intérieur, quelque chose a parlé. Je vous dis simplement la vérité, exactement ce qui s'est passé. Quelque chose m'a touché et a dit, ne crains pas. Ceci est ce troisième poule. Troisième poule, vous en souvenez? Il a dit, tu as eu tellement d'imitateurs, mais n'essaie pas de le faire dans ce cas-ci. N'essaye même pas. Vous vous souvenez? Combien se souvient de cette vision? Eh bien, elle est racontée sur les bandes partout. Cela fait environ 7 ans. Il m'a dit, n'essaye pas d'expliquer cela. Ceci est le troisième pôle, mais je te rencontrerai là. N'est-ce pas vrai? Il a dit, je me tenais là avec un petit soulier d'enfant dans la main quand il me parla disant, maintenant exerce ton premier pôle, quand tu l'auras fait, le poisson court après l'appât. Fais ensuite attention à ton deuxième pôle parce qu'il n'y aura que des petits poissons. Enfin, il y aura le troisième pôle. Et tous les prédicateurs m'entouraient en disant, frère Branham, nous savons que vous pouvez le faire. Alléluia, frère Branham. C'est ainsi que je suis toujours entraîné par une troupe de prédicateurs. J'aime les gens, mais ils veulent toujours qu'on leur explique ceci et cela, qu'on leur explique tout. Et il dit, je sais bien, je ne sais pas. La pêche, voilà comment ça se passe. Voyez, les poissons aux alentours, vous devez donner des petites secousses à l'appât. J'essayais la tactique de la pêche et je leur dis, secouez l'appât. Voyez, lorsque je secouais l'appât la première fois, les poissons s'approchaient. Ils étaient tout petits. Et l'un mordit à l'appât et je dis, te voilà attrapé. Et je le jetais sur la rive. J'avais bien eu un petit poisson, mais il semblait qu'on aurait dit un petit bout de peau sur l'appât. C'était tellement petit. Et tandis que je me tenais là, quelque chose m'a dit, je t'avais dit de ne pas faire cela. Et je me suis mis à pleurer. Toute la ligne était emmêlée autour de moi comme cela. Je me tenais là en pleurant, la tête baissée. Et je disais, « Oh Dieu, pardonne-moi. Je suis un homme stupide. Pardonne-moi, Seigneur. » Il y avait toute cette ligne autour de moi et voici que je tenais maintenant un petit soulier de bébé dans la main, long comme cela. Mais le lacet était presque aussi gros que mon doigt, environ un demi-pouce. Et l'œillet de ce petit soulier ne devait pas avoir plus d'un millimètre et demi. Et j'essayais de lacer ce petit soulier avec cette grosse corde d'un demi-pouce. Une voix me dit alors, « Tu ne peux pas enseigner à des bébés pentecôtistes des choses surnaturelles. Laisse-les tranquilles. » À ce moment-là, il m'a enlevé et m'a déposé quelque part où il y avait un grand rassemblement. Ça ressemblait à une tente ou une sorte de cathédrale. Et je regardais, voici, de l'autre côté, il y avait un petit endroit un peu semblable à une boîte. Et je vis cette lumière parlait à quelqu'un, cette lumière que vous voyez là sur la photo. Elle s'éloigna de moi tourbillonnant comme ceci, et alla se placer en disant, je te rencontrerai là. Ce sera le troisième pôle, et tu n'en diras à personne, tu n'en parleras. Et dans le Sabine Canyon, il m'avait dit, ceci est le troisième pôle. Et il y a trois choses glorieuses qui l'accompagnent. L'une a été dévoilée aujourd'hui, hier. L'autre s'est dévoilé aujourd'hui, et il y a une chose que je ne peux pas interpréter, car c'est dans une langue inconnue. Tandis que je me tenais là, et que je regardais cette chose en face, je vis que c'était l'arrivée du troisième pôle, et le Saint-Esprit de Dieu. Oh là là, c'est la raison pour laquelle tout le ciel fut silencieux. Maintenant, il vaut mieux que je m'arrête ici, voyez. Je me sens simplement empêché d'en dire plus. Rappelez-vous simplement, le septième sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été ouvert, la raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est que personne ne doit rien en connaître. Et j'aimerais que vous sachiez que la vision me vint des années avant que je sache quoi que ce soit là-dessus. Vous vous en souvenez? Et voici, tout comme l'autre, ça se glisse directement dans la parole. Et Dieu connaît mon cœur. Jamais une seule fois, je n'ai pensé à une telle chose. Et voilà, c'était là. Il est plus tard que nous pensons. Oh là là. Cela montre simplement que cela vient de Dieu. Car vous voyez, cela correspond exactement aux promesses de Dieu à la fin de ce message. Remarquez. Remarquez maintenant, à la fin du message du message du temps de la fin, ce sceau, après avoir révélé les six sceaux, il ne dit rien au sujet du septième, et le sceau du temps de la fin, quand il commencera, ce sera absolument un secret total, selon la Bible. Avant de le connaître, ça venait, rappelez-vous, Apocalypse 10, de 1 à 7, 1 à 7, chapitre 10, verset 1 à 7, à la fin du message du septième ange, tous les mystères de Dieu seraient connus. Nous sommes au temps de la fin, l'ouverture du septième sceau. Maintenant, comment est-ce que je savais dimanche passé, il y a une semaine aujourd'hui, j'ai prêché sur « Soyez humbles, soyez humbles ». Rappelez-vous que Dieu agit dans les petites choses. Je ne me rendais pas compte de ce que disait réellement cette prédication, mais maintenant je le vois. Tout se passe d'une manière si humble. On pourrait penser qu'une telle chose serait révélée au Vatican. Mais cela vient comme avec Jean-Baptiste. Cela vient comme la naissance de notre Seigneur dans une étable. Gloire à Dieu qu'il m'aide car l'heure est proche. Nous y sommes. Oh là là. Maintenant voyez-vous la vérité de la vision de Dieu et de ses sept anges me ramenant de l'ouest. Il venait de l'ouest, revenant vers l'est et m'amenant ici pour ce message ce soir. Oh là là. La voix de ce glorieux tonnerre et la mission qui a été donnée ici ont été révélées et prouvées comme venant de Dieu. Pensez-y seulement. Je ne savais rien, je ne savais pas ces sceaux et ils ont été révélés cette semaine. Quelqu'un a-t-il pensé à cela? Ces sept anges. Ceci étant le message qui allait être donné, ces anges qui m'ont ramené ici pour cela. Rappelez-vous que ce septième messager, ce septième, semblait avoir plus de signification pour moi que les autres. Il se tenait comme ceci. Je voudrais simplement que vous le remarquiez. Et moi, je me tenais ici, et je regardais, et je vis un premier groupe de petits oiseaux, aux plumes ébouriffées, vous vous souvenez? Et ils volaient tous vers l'est. Le deuxième groupe était formé d'oiseaux plus gros, de plus belle apparence, comme des colombes aux ailes déployées. Ils volaient aussi vers l'est. Premier pôle, deuxième pôle. Ensuite, c'était des anges. Je me tenais là, quand cette explosion se produit, et je regardais dans ces directions vers l'ouest, et les voici qui s'approchèrent et m'enlevèrent de là, et je me trouvais et je perdis immédiatement connaissance. Et celui qui s'approcha, qui me semblait si étrange, était celui qui était à ma gauche lorsque j'entrais dans la constellation, mais en comptant depuis la gauche vers la droite, cela aurait été le septième ange qui venait là, maintenant. Souvenez-vous, sept messagers. Souvenez-vous, la pyramide de pierre blanche, le roc blanc, du songe de Junior Jackson que j'ai interprété pour vous. Remarquez, le soir où je suis parti, il y avait eu six songes, et chacun d'eux se rapportait directement à la même chose. Ensuite vint cette vision qui m'envoya vers l'ouest. Junior, il observait. Remarquez comment tout cela est parfait. J'espère et je crois que vous comprenez bien que j'essaie d'attribuer cette grâce à Jésus-Christ qui est l'auteur de tout cela. Et la seule raison pour laquelle vous ne m'avez jamais entendu parler ainsi auparavant, mais cette heure approche. Remarquez. Maintenant, pour m'assurer que cela soit bien, que cela pénètre, je m'apprête à quitter de nouveau, je ne sais pas où je vais aller. Je dois annoncer cet évangile dans d'autres endroits. Mais est-il arrivé une fois, je dois seulement répondre devant Dieu, je ne puis juger aucun homme. Mais est-il arrivé une seule fois pendant toutes ces années où je vous ai dit quelque chose au nom du Seigneur qui n'ait pas été juste? Personne ne pourra le dire parce que j'ai toujours dit les choses comme il me les avait dites. Laissez-moi maintenant vous montrer et vous que ceci est vraiment la vérité et le confirmer. Rappelez-vous, si quelqu'un est spirituel ou prophète, moi le Seigneur, je lui parlerai dans des visions. Je me ferai connaître à lui par des songes, interpréter les songes. Joseph pouvait interpréter les songes et il avait des visions. N'est-ce pas vrai? Maintenant remarquez ceci. Quand cela eut lieu, Junior se tenait dans un champ où se dressait une grande pyramide portant une inscription gravée dans la pierre et moi j'en donnais la révélation aux gens. Est-ce vrai, Junior? Il y a eu cette vision environ il y a un an. Et j'ai pris comme une barre et j'ouvris la pyramide. Il y avait du roc blanc. Rien n'était écrit. À ce moment-là, je me suis mis en route vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, n'allez pas à l'ouest, restez ici et regardez ceci jusqu'à ce que je revienne. Je suis allé vers l'ouest où il y a eu l'explosion, puis je me suis retourné. Je suis retourné à l'est où le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Si ce n'est pas parfait, Dieu Tout-Puissant, j'aimerais savoir ce qui est parfait. Pourquoi est-ce que j'essaie de dire ces choses, les amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Si les autres visions sont en parfait accord avec la parole, celle-ci est aussi parfaitement en accord avec la parole. Nous y sommes. Nous sommes à la fin, les amis. Bientôt, le temps sera écoulé. Des millions perdront la vie. Des millions qui croient maintenant qu'ils sont sauvés seront estimés comme la proie de l'âge atomique. Nous vivons dans la dernière heure. Par la grâce du Dieu Tout-Puissant, avec son secours pour son peuple, afin qu'ils puissent se réjouir de l'apparition prochaine de Christ. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être 20 ans? Peut-être dans 50 ans? Peut-être dans 100 ans? Je ne sais pas. Et peut-être demain matin? Peut-être ce soir? Je ne sais pas. Ceux qui disent qu'ils le savent sont dans l'erreur. Ils ne savent pas. Dieu seul le sait. Maintenant, remarquez que Dieu m'aide. Je dis la vérité. Que cela a été discerné spirituellement par moi, discerné par le Saint-Esprit. Et par tous ceux qui ont identifié leur position dans la Bible. Maintenant, quel est ce grand secret caché sous ce sceau? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je n'ai pas pu le comprendre. Je ne pouvais pas le dire. Ce qu'il a dit. Mais je sais que c'était ces sept tonnerres faisant entendre leur voix immédiatement l'un après l'autre, tonnant à sept reprises, et que cela s'est déployé en quelque chose d'autre que j'ai vu. Et quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation qui coulait là, et je n'ai pas pu le saisir. L'heure n'est pas encore arrivée pour cela, mais nous entrons dans ce cycle, voyez, cela vient, ça se rapproche. Ainsi, la chose pour vous à faire, c'est vous rappeler que je vous parle dans le nom du Seigneur. Soyez préparés, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Maintenant, quand ce sera enregistré, et c'est le cas, il y aura probablement des dizaines de milliers de mes amis qui vont s'éloigner de moi, disant que Frère Branham essaie de se mettre en avant, de se faire passer pour un serviteur, un prophète ou quoi que ce soit. Laissez-moi vous dire, mes frères, c'est une erreur. Je ne fais que vous dire ce que j'ai vu et ce qui m'a été dit. Faites ce que vous voulez. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas. Je sais simplement que ces sept tonnerres détiennent ce mystère et que les cieux se sont tus. Tout le monde a compris? C'est peut-être le temps. L'heure est peut-être là maintenant où cette grande personne que nous nous attendons à voir sur la scène va entrer en scène. Peut-être ce ministère par lequel j'ai essayé de ramener les gens à la parole a établi un fondement. Et si c'est le cas, je vais vous quitter pour de bon. Nous ne serons pas deux ici en même temps. Si c'est le cas, il va croître et je vais diminuer. Je ne sais pas. Mais j'ai eu le privilège par Dieu de regarder et voir ce que c'était. Et le dévoiler jusqu'à ce point, et c'est la vérité. Et je suis sûr que vous avez remarqué les choses qui se sont passées cette semaine. Je suis sûr. L'autre soir, vous avez remarqué ce petit garçon Collins, là en train de mourir, cette petite fille avec la leucémie. Le royaume de Dieu vient. Et cela passe de plus en plus du négatif au positif, comme cela a été. Ça ne devrait pas étouffer les gens. On est passé de la justification à la sanctification, puis au baptême du Saint-Esprit, et ensuite nous attendons cela ici. Nous nous rapprochons simplement de Dieu tout le temps. Ne pouvez-vous pas voir, prédicateur méthodiste, combien votre message de sanctification est allé au-delà de ce qu'a prêché Luther? Et vous, pentecôtistes, ne pouvez-vous pas voir combien votre message sur le baptême va au-delà de ce que les méthodistes ont prêché? Voyez-vous ce que je veux dire? Nous avons eu un tas de choses qui sont venues, c'est vrai. Et s'il y a quelqu'un qui méprise le mal, et il y a des gens qui disent quelque chose qui est réellement un mensonge, je déteste cela. Mais j'aime une vérité consistante, peu importe dans quelle mesure elle interrompt cette voie-ci ou celle-là. Si c'est la vérité, Dieu finira par montrer que c'est la vérité. Et s'il ne le fait pas, l'un de ces jours, alors, c'est que ma vision n'était pas correcte. Maintenant, vous voyez où je me place. Quand est-ce que ce sera, frère Branham? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais l'un de ces jours, si jamais il arrivait que nous ne rencontrions plus ici sur cette terre, nous nous rencontrerons là-bas au trône du jugement de Christ. Et vous découvrirez que dans cette pièce, la révélation est venue de Dieu, comme toutes les autres, l'un des mystères de ce sceau, la raison pour laquelle il n'a pas été révélé, c'est que sept tonnerres ont fait entendre leur voix, et que c'est parfaitement parce que personne ne sait rien à ce sujet, cela n'a même pas été écrit. Ainsi, nous sommes au temps de la fin. Nous y sommes. Je remercie Dieu pour sa parole. Je le remercie pour Jésus-Christ, car s'il ne l'avait pas envoyé pour la propitiation de nos péchés, nous serions tous dans un grand bourbier de péchés sans aucune espérance. Mais par sa grâce, son sang purifie tout péché. C'est comme une goutte d'encre qui tombe dans un seau plein d'eau de Javel. On ne peut plus jamais retrouver nos péchés lorsqu'ils sont confessés. Ils sont mis dans le sang de Jésus-Christ. Ils ne seront plus jamais connus. Dieu les oublie. Ils n'ont même pas été commis tant que ce sacrifice se trouve là, faisant l'expiation pour nous. C'est tout ce qu'il faut. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des chrétiens par la grâce de Dieu. Rappelez-vous qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous serions probablement toujours aussi mauvais. Mais vous voyez, la grâce de Dieu nous est apparue. Et c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des frères et des sœurs chrétiens. Cela a été une semaine extraordinaire. Je suis fatigué, mon esprit est fatigué, parce que j'ai fait de mon mieux et quelque chose d'étrange s'est passé chaque jour. Lorsque je marchais dans ma chambre, je m'étonnais de voir après quelques minutes, quelque chose qui me retournait complètement. Et j'allais voir mes notes, je prenais des livres, Dr. Smith, Uriah Smith et tous les autres, les écrivains, je les lisais. Et je disais, voici le sixième sceau, voici le quatrième sceau. Maintenant, que dit cet homme? Il disait, c'est ceci ou cela. Alors je vérifiais, j'allais voir un autre qui disait, c'est ceci et cela. Et ça ne correspondait pas bien. Alors, tout en parcourant ma chambre, je disais, alors Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je m'agenouillais, je priais, puis je revenais prendre ma Bible, je m'asseyais pour lire, je recommençais à marcher, et tout à coup, quand j'étais dans le silence, tout se déroulait devant mes yeux. Alors, je prenais vite une plume, écrire tout ce que je voyais, restant attentif jusqu'à ce que tout soit noté. Ensuite, je passais le reste de la journée à suivre ces choses dans les Écritures et à voir si tout correspondait avec les Écritures d'un bout à l'autre. Et cela prouvait alors toutes choses. En reprenant ces choses, je pensais, beaucoup de gens ont des visions. Il y a beaucoup qui ont des révélations, mais si elles sont contraires à la parole, laissez tomber, c'est vrai. Laissez ça tranquille. Maintenant, pendant que je continuais mes recherches, je prenais des notes comme ceci. Eh bien, la classe sera heureuse d'entendre cela parce que ces choses sont liées ensemble. Vous voyez ce qui est écrit ici? Oui, oui, c'est bien là. Vous voyez, cela nous mène d'un bout à l'autre de la Bible et nous avons relié le tout ensemble tout au long de la semaine. Maintenant, c'est enregistré sur bande. Et je l'ai fait au mieux de ma connaissance dans la communion chrétienne, par la grâce de Dieu. Faites à tout homme par Jésus-Christ. J'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu cette semaine. Vous avez été l'une des meilleures classes. Personne ne pourrait dire le contraire. Vous veniez tous dès 1 heure alors que les portes ne s'ouvrent qu'à 5 heures. Vous êtes restés dans le froid et dans la neige. Vous avez tout fait. Vous êtes restés debout contre les murs jusqu'à avoir mal aux jambes. J'ai vu les hommes s'asseoir par terre pour que les femmes puissent s'asseoir. Et d'autres sont restés debout. Ils s'asseyaient un peu partout. Et je pensais, oh Seigneur, ça a été une semaine mystérieuse. Tout a été quelque peu étrange avec tous ces gens qui ont voulu venir. On les voyait rester debout à l'extérieur, dans les embrasures des fenêtres, sur le pas de la porte, partout, écoutant. Et je suis loin d'être un orateur. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne suis pas un orateur. Mais pourquoi les gens viennent-ils écouter comme cela? Pourquoi font-ils cela? Ils ne viendraient pas écouter une personne comme moi, mais ils sont venus parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui attire les gens. Voyez, il y a là quelque chose qui les attire. C'est comme le dit ce cantique que chantait ma femme. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de pays éloignés pour avoir part au festin avec le roi, pour être ses hôtes au souper. Qu'ils sont bénis, ces pèlerins. Ils contemplent sa face bénie, brillante de lumière divine, participant bénis de sa grâce comme des joyaux étincelants de sa couronne. Puissiez-vous toujours garder ceci à l'esprit, être une pierre précieuse dans la couronne de Jésus-Christ. Paul a dit à l'Église, vous êtes les joyaux, les pierres précieuses de sa couronne. Nous désirons être les pierres précieuses de la couronne de Jésus-Christ. Nous ne voudrons jamais mettre cette couronne sur la tête d'un homme. Oubliez toute chose à ce sujet. Je suis votre frère, un pécheur sauvé par grâce, indigne de vivre. C'est l'exacte vérité. Je ne dis pas ça pour être humble, c'est un fait. Il n'y a rien en moi, pas une seule chose saine, mais la grâce de Dieu a permis à mes pauvres yeux obscurcis de regarder au-delà du rideau du temps et voir ces choses. Et je reviens. Quand j'étais un petit garçon, j'aimais les gens et j'aurais toujours aimé avoir quelqu'un qui m'aime et me parle. Mais personne ne voulait le faire à cause de la mauvaise réputation de ma famille. Personne ne voulait me parler. Mais lorsque je me suis abandonné à Dieu, et je pensais que peut-être ma famille était d'origine irlandaise et tous ses membres catholiques, cela arrangerait les choses. Je suis allé là, et c'était d'une manière. Dans la première église baptiste, c'était d'une autre manière. Je dis, Seigneur, il doit y avoir quelque part où c'est la vérité. Alors quelque chose m'a dit, c'est la parole. Je me suis tenu à cette parole. Voyez ces visions partout le jour où j'ai posé la pierre d'angle de cette église. J'y ai écrit ce qu'il m'avait montré en vision le matin même. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. J'ai vu ces deux arbres auprès desquels je me trouvais faisant exactement la même chose. L'un et l'autre, c'est vrai. Voilà où nous en sommes. C'est la vérité. Maintenant, souvenez-vous, laissez-moi vous exhorter à nouveau. Ne dites pas merci à qui que ce soit. Ne pensez pas qu'il y a un ministre ou un homme immortel qui peut faire quoi que ce soit, parce que ce n'est pas, peu importe qui il est. Il n'y a rien de bon en aucun homme. C'est vrai. S'il y avait ici toute une série de trompettes et que l'une d'elles dut jouer une certaine musique, ce qui compte, c'est l'homme. Ces trompettes sont parfaitement muettes. C'est celui qui sait jouer de la trompette et qui sait ce qu'il va faire quand il la prend. La trompette n'a rien en elle-même. Le son vient de l'intelligence qui est derrière elle. C'est vrai. Toutes les trompettes sont les mêmes. Tous les hommes sont les mêmes. Tous les chrétiens sont les mêmes. Il n'y a pas de grands hommes parmi nous. Nous ne sommes pas de grands hommes, de grandes femmes. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Tous les mêmes et du même ordre de grandeur. Nous ne sommes pas grands. Nous ne faisons pas quelque chose plus grand les uns que les autres. Ce n'est pas du tout une chose à faire. Pas du tout. Non, monsieur. Mais nous sommes simplement tous des êtres humains. N'essayez pas d'interpréter les choses. N'essayez pas de faire quoi que ce soit de plus que vivre simplement une vie proche de Jésus-Christ, lui donnant gloire et honneur. Tout le monde comprend cela maintenant? Aimez-le de tout votre cœur. Allez-vous le faire? Comprenez-vous tous complètement? Est-ce que chacun croit? Rappelez-vous par quoi j'ai commencé? Qui a cru à notre rapport? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Vous a-t-il révélé sa miséricorde et sa bonté? Amen. Rappelez-vous simplement, aimez-le de tout votre cœur. Maintenant, je vais retourner à la maison et je reviendrai à nouveau, Dieu voulant, c'est-à-dire le 1er juin. Si le Seigneur le met sur mon cœur, peut-être je vous reverrai au début de l'été, en juin ou à un autre moment, ou peut-être au début de l'automne, si le Seigneur tarde. J'aimerais bien revenir et passer encore cette soirée pour les sept dernières trompettes. Aimeriez-vous cela? Voulez-vous prier pour moi? Que Dieu m'aide, très bien, jusqu'à ce que nous nous revoyons. Et rappelez-vous ce bon vieux cantique. Maintenant, je vous invite à incliner la tête, je désire prier pour vous. Avant que le pasteur ne termine cette réunion, je désire prier pour vous. Notre Père Céleste, que tous ces gens puissent comprendre. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas. Mais Père, puissent-ils connaître l'objectif? Puissent-ils comprendre, Père, que c'est par ta grâce à leur égard que ces choses sont révélées. Et je veux te remercier, Seigneur, pour la connaissance qui nous fait connaître ces choses et que tu nous as révélées. Et je prie pour tous ceux qui sont ici, tous ceux qui ont assisté aux réunions, s'il y en a quelques-uns qui ne croient pas, Seigneur, puissent-ils devenir des croyants. Je prie aussi pour tous ceux qui entendront ces messages par les bandes, et si elles parviennent, et cela arrivera certainement, dans la maison de nombreux incrédules, qui ne sont pas d'accord. Père, je prie pour chacun d'eux, afin qu'avant de dire des paroles blasphématoires, ils puissent commencer par s'asseoir et sonder les Écritures au sujet de ce qui a été dit, et te dire ensuite qu'ils sont vraiment sincères et désirent savoir si c'est la vérité ou pas. Je prie pour eux, Père. Et je prie pour tous ceux qui ont dû rester le long de ces murs, debout ou à l'extérieur, assis dans leur voiture, pour les petits-enfants, et pour tous, Seigneur, qui étaient à l'intérieur, pour tous, Seigneur, je te prie pour eux. Je prie que mes prières soient exaucées, que tu les bénisses. Premièrement, Seigneur, donne à chacun la vie éternelle. Je prie qu'aucun d'eux ne soit perdu. Aucun. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce glorieux événement se produira, mais lorsque nous voyons apparaître tous ces signes et ces choses conformes aux Écritures, cela avertit notre cœur au-delà de toute mesure. Et je prie, ô Dieu, notre Père, que tu nous viennes en aide. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville, remplis-le de grâce, de puissance et d'intelligence, Seigneur, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et nourrir les agneaux de Dieu. Seigneur, je te prie de les préserver de la maladie. Lorsque des gens deviennent malades, qu'ils puissent se souvenir du sang tout suffisant du Seigneur Jésus-Christ sur l'autel pour faire l'expiation. Je prie qu'il soit guéri immédiatement et je te prie que tu éloignes d'eux la puissance de Satan qui veut les décourager ou essayer de les faire fabriquer des sectes. Garde simplement loin d'eux les puissances de l'ennemi, Seigneur. Sanctifie-nous par ta parole. Accorde-le, Seigneur. Ensuite, Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à diminuer, Seigneur. Je sais que mes jours ne sont plus très nombreux. Et je te prie de m'aider. Que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin de pouvoir porter le message aussi loin qu'il m'a été ordonné de le porter. Et quand le temps sera venu pour moi d'entrer dans le repos, quand je descendrai vers la rivière, où les vagues commenceront à venir, oh Dieu, que je puisse remettre cette épée à quelqu'un d'autre qui sera honnête avec elle, Seigneur, et qui portera la vérité. Accorde-le, Seigneur. Jusqu'alors, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Aide mon Église. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous sommes les tiens. Nous sentons maintenant que ton esprit est parmi nous. Nous croyons que tu répondras à nos prières, car nous nous en remettons à toi avec ta parole pour être à ton service pour le reste de nos jours sur cette terre. Nous te le demandons au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, et pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je l'aime de tout mon cœur. Vous venez d'entendre le septième psaume original prêché le 24 mars 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Frère Branham ne voulait pas que cet enregistrement soit délivré. Le jour suivant, Frère Branham est allé dans une chambre de motel avec Frère Southman et Frère Maguire. À ce moment-là, ils étaient en charge de faire les enregistrements. Frère Branham a dit à ses frères, je ne veux pas que ce message sorte comme il a été donné. Après avoir entendu la bande, il a dit aux frères d'arrêter la bande à un certain endroit. Et à ce moment-là, une nouvelle portion d'environ 20 minutes a été ajoutée. Cette portion a été utilisée au lieu de l'enregistrement originel. C'est la seule partie qui a été libérée jusqu'en 1966. Après le départ de Frère Branham, d'une façon unanime, il a été décidé de libérer l'enregistrement originel. Depuis ce moment-là, les deux versions sont disponibles. Ce message additionnel a été maintenant ajouté avec le septième sceau. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est Frère Branham dans la chambre du motel le 25 mars 1963. C'est une bonne chose que Satan ne connaisse rien à ce sujet, parce que si c'était le cas, il l'imiterait. C'est ainsi qu'il nous joue ses mauvais tours. C'est pourquoi Dieu l'a tellement caché au monde entier, même au ciel, qu'il n'y a aucun moyen de le comprendre, sauf alors que Dieu veut le révéler lui-même. Je voudrais que vous remarquiez ce soir que dans le sixième sceau, il y avait un triple but du sixième sceau. Il y avait le triple but des cavaliers, le triple but en toutes ces choses. Cela nous ramène de nouveau au chiffre de 3 et 7, 7 sceaux, 7 coupes, etc. 3 et 7 sont les nombres de Dieu dans sa mathématique, de la révélation de sa parole. Remarquez que c'est comme avec les cavaliers. Trois chevaux ont paru. L'un était blanc, l'autre était roux, l'autre était noir. Et le quatrième cheval, eh bien, c'était tous les trois mélangés ensemble. Vous voyez, un triple dessin. Dieu a fait la même chose quand il a envoyé son lion, qui était sa parole, pour combattre l'Antichrist. Nous découvrons ensuite qu'il envoie le bœuf pendant le temps de la tribulation, l'animal de sacrifice, et pendant ce temps de tribulation, tout ce que les gens pouvaient faire, était de travailler comme des esclaves et s'offrir eux-mêmes en sacrifice. Ensuite, nous voyons dans l'âge suivant, l'âge des réformateurs, Dieu a envoyé la sagesse d'un homme. L'être vivant a une face d'homme, qui était une puissance qui s'est manifestée dans les âges des réformateurs. Il n'est pas étonnant que les gens d'aujourd'hui vivent encore des restes de la réforme. C'est parce qu'ils voient les choses de la manière ecclésiastique. Ils le voient selon ce qu'on a enseigné dans les séminaires. Ce fut un temps où cela était la manière de Dieu, mais nous avons dépassé ce temps-là. Maintenant, nous sommes dans l'âge de l'aigle. La révélation, ce qui doit être révélé. Comparez ceci avec Apocalypse 10, versets 1 à 7, où il est dit ici, dans Apocalypse 10, 2 à 7, qu'au jour de la voix du message du septième ange, cela devait terminer tous les mystères de Dieu. Nous avons vu aussi que l'ouverture du sixième sceau maintenant, c'était dans un triple but. Voici les buts. La première chose, c'est que les vierges endormies doivent passer par la tribulation pour être purifiées. Elles doivent être purifiées de leur péché d'incrédulité pour avoir rejeté le message. C'est ce qu'elles font pendant la période de tribulation. Nous les voyons aboutir ici dans Apocalypse 7, entre le sixième et le septième chapitre ici, où elles ont été purifiées, où elles reçoivent leur robe. Maintenant, ce n'est pas l'épouse, c'est l'Église qui sont purs, des gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de recevoir le message ou qui ont été aveuglés d'une manière ou l'autre par des faux prophètes. Ils n'ont pas eu l'occasion. Pourtant, leur cœur est réellement sincère et Dieu connaît leur cœur et ils sont purifiés pendant ce temps-là. Remarquez qu'il y a encore une autre période de purification. C'est pour Israël. Quand ils se rassemblent, c'est le deuxième dessein. Dieu purifie Israël pendant la période de tribulation parmi les millions qui se rassembleront là. Il y aura 144 000 qui seront choisis et ils seront purifiés également. C'est Dieu qui purifie Israël. Remarquez, toute la terre doit être purifiée. Il se passera quelque chose qui fera que la lune, les étoiles et toute la nature seront purifiées. Voyez ce que c'est? La terre se renouvelle, étant purifiée et se préparant pour le millénium. Le millénium arrive, et vous voyez, tout ce qui a la moindre souillure en soi doit être purifié pendant le sixième sceau. Maintenant, avez-vous remarqué, à l'ouverture du septième sceau, c'est aussi un triple mystère. En trois parties, il y a celui dont j'ai parlé et dont je parlerai encore, c'est le mystère des sept tonnerres. Les sept tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Ce sera au moment même de la venue de Christ, parce que Christ a dit que personne ne saurait quand il reviendrait. Avez-vous remarqué quand les Juifs lui ont demandé cela? Vous avez vu que les Écritures, quand nous avons comparé les six sceaux avec Matthieu 24, le septième sceau avait été laissé de côté. Parce que vous voyez, Christ dit que pas même les anges ne savaient, seul Dieu lui-même le savait, ce n'était même pas écrit. Ils se sont tus, voyez-vous, les anges ne le savent pas, personne ne sait quand il vient. Mais il y aura sept voix de ces tonnerres qui révéleront la grande révélation à ce moment-là. Ainsi, je crois, si nous ne savons pas, que cela ne sera pas connu avant ce temps-là, mais ce sera révélé ce jour-là, à l'heure où c'est censé être révélé. Ainsi, la seule chose à faire, c'est d'avoir du respect devant Dieu, de le servir et de faire tout ce que nous pouvons faire, vivre une bonne vie chrétienne. Nous voyons maintenant ici que le sixième sceau a été ouvert, nous l'avons vu, et nous savons que le septième sceau ne peut pas être brisé au public avant que cette heure n'arrive. Maintenant, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait tonner ces sept voix, car elles doivent venir. Et nous découvrons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert ce septième sceau. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela correspond bien à ce qu'il a dit, personne ne saurait quand il viendrait, et aussi que personne ne saura rien au sujet de ce mystère des sept tonnerres. Ainsi, nous voyons que c'est connecté ensemble. Nous pouvons comprendre cela aujourd'hui, parce que le reste n'a pas été dévoilé. Mais ceci a été dévoilé. J'étais assis dans ma chambre, et j'ai entendu, pas entendu, mais plutôt j'ai vu ces choses se dévoiler jusqu'à ces sept tonnerres. Et c'est aussi loin que nous pouvons aller, juste là. Et je crois que chacun de vous, vous allez servir Dieu, faire ce qui est juste, l'aimer toute votre vie et le servir, et Dieu prendra soin du reste. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous avons ici au complet tous les mystères des six sceaux qui ont été scellés, et nous comprenons et nous savons ici que le septième sceau ne doit pas être connu au public. Maintenant, au sujet de sa venue, quand la terre sera détruite, vous savez qu'il est dit dans Matthieu 24 quel sera le signe de la fin du monde. Matthieu 24, lorsqu'ils lui ont posé cette question, il est allé dans ce sujet, il leur a parlé du rassemblement d'Israël en tant que nation, au verset 31. De Matthieu 24, 31. Mais après, il commença à leur parler en parabole, vous voyez. Et il leur dit, instruisez-vous d'une comparaison du figuier lorsqu'il commence à pousser des bourgeons, et bien vous savez que le printemps est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, alors sachez que le temps est proche. Vous voyez Israël se rassembler dans sa propre patrie, et vous avez remarqué qu'il a omis la révélation de ce septième sceau. Et ici, quand il ouvrit le septième sceau, il a également omis à nouveau. Ainsi, nous voyons que c'est un complet mystère. C'est pourquoi l'heure n'est pas encore pour que ce mystère soit connu. C'est pourquoi, jusque-là, et le reste sera connu vers le moment où Jésus apparaîtra sur la terre, à nouveau pour venir chercher son épouse ou ce qui arrivera à ce moment-là. En attendant ce moment-là, prions simplement, vivons une bonne vie chrétienne en nous réjouissant de sa venue. Maintenant, si cette bande venait à tomber dans les mains de certaines personnes, quelque part, n'essayez pas de faire une sorte de isme. La seule chose à faire est de continuer à servir Dieu, parce que ce grand secret est si glorieux que Dieu ne voulait même pas laisser Jean écrire. Cela a tonné, mais il nous a promis qu'il serait ouvert. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'est pas ouvert. Maintenant, nous sommes reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il nous a montré. Je suis resté dans la pièce là-haut pendant 8 jours. Le message que je vous ai expliqué, beaucoup ici vont comprendre, et je promets que quelque chose de spirituel s'est passé tout ce temps, et je suis sûr que vous l'avez manqué, et voici ce que c'est. C'est la confirmation absolue de cette interprétation des Écritures qui a été envoyée par Dieu, parce que avant même d'être entré là-dedans, j'étais conduit vers l'ouest. Le Seigneur m'a montré une vision un jour vers 10h le matin, et je suis revenu l'expliquer. Ce que j'avais vu, je ne savais pas ce que c'était. C'était une constellation de 7 anges. Nous nous souvenons de cela. Ce récit se trouve sur bande dans le message. Messieurs, quelle heure est-il? Eh bien, c'est exactement ce que vous êtes en train de voir maintenant. Les 7 anges, j'étais à l'ouest. Vous souvenez, les petits messagers, ils allaient vers l'est. Les seconds messagers, les colombes, des oiseaux un peu plus gros que les premiers, allaient aussi vers l'est. Et je regardais, et je voyais qu'ils étaient tout le temps avec moi. C'était le premier et le deuxième pôle. Maintenant, le troisième est venu de l'ouest, balayant l'espace à une vitesse terrifiante, et ils m'emportèrent. C'était le retour à l'est, avec le mystère de ces 7 sceaux, exactement comme le montrait le songe de Junior Jackson, dont le Seigneur me donna l'interprétation pour lui. À l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche, sur laquelle rien n'était écrit. C'est la raison pour laquelle je devais aller à l'ouest, pour me connecter avec le message de ces anges, afin de revenir ici pour le révéler à l'Église. Rappelez-vous que j'ai dit la chose suivante qui arrivera dans cette Église. C'est exactement cela. Et j'aimerais que vous remarquiez autre chose, ce qui est arrivé. Et si vous écoutez la bande, messieurs, quelle heure est-il? Vous remarquerez que l'un des anges était très remarquable pour moi. Les autres me semblaient des anges ordinaires, mais celui-là était un ange remarquable. Il était à ma gauche, dans la constellation en forme de pyramide. Et rappelez-vous que c'était dans la pyramide que se trouvait le mystérieux rocher blanc sur lequel rien n'était écrit. Et les anges me prirent à l'intérieur de ces pyramides formées par eux-mêmes. Les mystères de Dieu connus d'eux seuls. C'était donc les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide ou ce message du secret de ces sept sceaux qui se trouvaient à l'intérieur de la pyramide. Cet ange qui était à ma gauche était réellement le dernier ou le septième ange, si l'on compte de gauche à droite, parce qu'il était à ma gauche. Donc je me tournais vers lui en direction de l'ouest, et lui venant de l'est était du côté gauche. C'était donc le message du dernier ange, très remarquable. Vous vous rappelez que j'avais dit qu'il tenait sa tête un peu en arrière, qu'il avait des grandes ailes pointues et qu'il vola directement vers moi. C'est le septième sceau. C'est quelque chose de remarquable. Nous ne savons pas ce que c'est encore, parce qu'il n'a pas été permis que ce soit brisé. Mais maintenant, chacun de vous dans la réunion ont remarqué quel genre de réunion ça a été. Chacun avait l'air d'être assis simplement au bord de sa chaise. Chacun était là depuis une heure ou deux l'après-midi, attendant l'ouverture des portes afin de pouvoir venir devant, ou même rester debout, appuyé au mur, quitte à attraper des crampes. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit qui a envoyé ses messagers et ils nous l'ont révélé. Et remarquez encore comment tout cela s'accorde exactement avec la parole. Afin de nous faire savoir que c'est la vérité, il l'a prédit plus de deux mois avant, ou plus maintenant, avant que ça n'arrive. Lorsque je suis allé dans l'Ouest, je ne savais pas cela, mais je suis revenu ici avec l'interprétation comme il me l'a donné. Rappelez-vous que dans la vision, il ne m'a jamais rien dit. Quand il m'a enlevé, j'étais effrayé. Je craignais de devoir mourir, d'être tué dans une explosion. Vous voyez, il ne pouvait pas le faire. L'interprétation est venue quand j'en ai eu besoin, c'est-à-dire dans ma chambre, et je vous l'ai donné comme il me l'a donné. Maintenant, vous voyez, les amis, les visions ne faillissent pas, elles sont toujours parfaites. Elles sont absolument exactes. Maintenant, les visions, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'Église, tout cela fusionne. Ainsi donc, je peux véritablement dire qu'au mieux de ma compréhension, et selon la parole de Dieu, et la vision et la révélation, l'interprétation, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant que le Seigneur vous bénisse tous, chacun de vous richement, tandis que nous nous levons maintenant pour chanter ce bon cantique de l'Église, que Dieu vous bénisse chacun de vous. Amen.